projets d'aménagement et de développement des territoires, et de développement durable, durable au pluriel. Vous avez eu donc des documents, d'une part la synthèse, ensuite vous avez également eu le PowerPoint qui vous est présenté. Il y a un document complet de plus de 25 pages qui est à votre disposition si vous le souhaitez. L'intérêt, c'est qu'on puisse bien comprendre l'enjeu de ce PADD sur lequel, alors ça dépend comment on le prend, où il vient s'adosser, où il est l'élément, de convergence, que ce soit du PLUI, mais également du plan de mobilité, mais également, pourquoi pas, du plan local de l'habitat, etc., etc. En fait, tout ce qui définit et régit notre cadre de vie aujourd'hui, mais surtout demain. C'est la difficulté quand on travaille sur l'avenir, et on le sait tous, hein, c'est de dire comment on sera fait demain et quelles sont les réponses qu'on peut déjà essayer de prévoir par rapport aux problèmes, aux difficultés, aux questions qui se poseront. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Gilles. Et puis à la fin, il y a après la présentation, il y aura une phase de questions-réponses. N'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions, même celles qui pourraient paraître les plus saugrenues. On est là pour y répondre. Merci.
Bien, merci Christian. Bonsoir à tous. Alors je vais peut-être me présenter très rapidement. Gilles Tizy, je suis vice-président à Saint-Étienne Métropole en charge de la cohésion territoriale et de la stratégie foncière. Mais je suis également maire de la commune de Marcenaux, donc tout au sud des monts du Lyonnais. Je jouxte les départements du Rhône. Alors je viens ce soir effectivement vous présenter les grandes orientations générales du projet d'aménagement et développement durable du futur plan local d'urbanisme intercommunal de Saint-Étienne Métropole. Et je vais commencer par un certain nombre de rappels, un préambule peut-être qui va être assez long, mais commencer par vous dire que la compétence urbanisme est remontée à la métropole depuis le 1er janvier 2016, date à laquelle nous sommes passés communauté urbaine. Et donc à ce moment-là, il y a un certain nombre de compétences communales telles que la voirie, l'eau, l'assainissement, mais aussi les documents d'urbanisme qui sont remontés à la métropole. Vous avez donc aujourd'hui un document communal de planification propre à la commune de Saint-Priest, mais c'est le dernier. Et en plus, vous ne pouvez plus le réviser depuis que la compétence est repassée à Saint-Étienne Métropole. C'est vraiment la métropole qui a la compétence et on ne peut faire que quelques petites modifications aux documents des communes. Et c'est des choses qu'on fait de manière très régulière, mais il ne peut plus y avoir de révision générale, sauf dans le cadre de l'élaboration d'un document qui sera le futur plan local d'urbanisme intercommunal, mais à l'échelle des 53 communes. Et comme c'est Saint-Étienne Métropole qui a la compétence, c'est le Conseil métropolitain qui va l'arrêter et qui va l'approuver, tout comme il a lancé la délibération pour prescrire l'élaboration de ce document. Néanmoins, le Code de l'urbanisme prévoit qu'il y ait une intervention des conseils municipaux au moins à deux moments, donc ce soir pour la commune de Saint-Priest, où il va y avoir un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, mais c'est juste un débat. Et il y aura un deuxième temps plus important à l'issue de l'arrêt du projet, donc en cours d'année prochaine, où là, vous serez sollicité pour émettre un avis qui pourra être favorable avec réserve, sous condition, voire même défavorable. Et en fonction des avis de l'ensemble des communes, il pourrait y avoir une évolution dans un sens ou dans un autre de la démarche. Mais il s'agit bien d'un projet d'aménagement et de développement durable à l'échelle des 53 communes. Et c'est bien pour ça que c'est moi qui viens vous le présenter, comme je vais le faire dans les autres conseils municipaux. Alors, comment va se dérouler mon intervention? Christian, tu l'as dit un petit peu. Alors, une intervention générale identique, quel que soit le conseil municipal dans lequel je vais intervenir. Il s'agit là d'une obligation réglementaire, et si j'avais des présentations différentes, ça pourrait être source de fragilité juridique. Je vais la dérouler dans son intégralité, et puis après, si vous le souhaitez, je prendrai des questions sur un temps qui peut être court ou plus ou moins long, suivant comme vous le souhaitez. Et puis, à l'issue de ce temps d'échange, je m'en vais. Et je vous laisse tout seul débattre du projet, puisque c'est vraiment un débat au sein du conseil municipal. Et par ma seule présence, je pourrais influer négativement ou positivement sur les débats qui pourraient être donnés. C'est une présentation et un débat qui va nous permettre de reprendre un petit peu de hauteur, si je peux m'exprimer ainsi, puisque pour l'instant, on est plutôt la tête dans le guidon et on est en train de travailler ces orientations, mais plutôt pour un atterrissage ponctuelle sur la commune de Saint-Priest au niveau du règlement graphique et du règlement tout court qui va arriver dans les semaines qui viennent. Et enfin, le code de l'urbanisme ne prévoyant pas dans quel ordre nous passons entre les conseils municipaux et le conseil métropolitain, on a décidé de commencer par les 53 conseils municipaux de manière à ce que vos retours, vos débats puissent enrichir notre propre débat au sein du conseil métropolitain. J'ai ensuite une diapo que j'ai déjà utilisée il y a quelques années puisque j'avais déjà fait le tour des conseils municipaux pour vous expliquer qu'un PLUI, donc un projet local d'urbanisme intercommunal, est une résultante de deux approches. Donc un projet de territoire qui a fait émerger, donc avec les vrais besoins du territoire de la métropole stéphanoise et de ses communes. Et donc le projet qu'on va porter ne sera pas semblable à celui de Loire-Forêt Agglomération ou d'autres collectivités autour de nous. Et on va aussi s'appuyer, comme tu l'as très juste dit, sur les politiques publiques qui aujourd'hui existent déjà sur Saint-Étienne Métropole. Et de l'autre côté, vous allez le voir tout au long de la soirée, on va avoir un cadre réglementaire, donc à transposer, à respecter, qui s'est considérablement durci. Donc on aura des objectifs nationaux, je vous le présenterai tout à l'heure, et notamment la loi climat et résilience, des objectifs qui viennent de la région, c'est le SRADET. SRADET, ça veut dire schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires. Et puis des objectifs plus locaux, notamment ceux du SCOT Sud-Loire, qui est un schéma de cohérence territoriale qui regroupe 4 PCI dans le Sud-Loire. Et donc, j'ai l'habitude de dire que si on méconnaît l'une de ces deux approches, ça ne va pas marcher. Si on ne fait que s'intéresser au projet et qu'on méconnaît le cadre réglementaire, on aura travaillé pour rien, parce que l'État émettra un avis négatif sur notre projet et le préfet de la Loire ne le rendra jamais exécutoire. Et si on ne fait que respecter le cadre réglementaire, là, ils seront tous d'accord. Seulement, c'est vous, élus locaux, qui ne serez peut-être pas tout à fait d'accord parce qu'on aura un document qui sera peut-être hors cadre, hors territoire et qui ne sera pas suffisamment intéressant pour les communes. C'est donc un vrai projet à bâtir à 53 communes. Et là aussi, par analogie, quand vous avez travaillé sur votre propre document communal, vous êtes plutôt intéressé à l'intérêt général de la commune et vous n'avez peut-être pas retranscrit toutes les demandes de vos administrés. Et bien, dans le cadre du PLUI, là aussi, on va essayer d'écouter toutes les communes, mais on va travailler dans l'intérêt général de l'ensemble de Saint-Étienne Métropole et que probablement toutes les attentes de l'ensemble des communes ne seront pas forcément entendues. Donc c'est un projet de territoire qui va durer jusqu'à 15 ans, je vous le présenterai un petit peu plus tard, qui va nous demander justement de prendre en compte cette réglementation qui s'est considérablement durcie, mais aussi les politiques de la métropole, intégrer les problématiques intercommunales, puisqu'on réfléchit à un territoire qui est beaucoup plus vaste que votre seule commune, et puis réfléchir sur ce qu'on veut justement transmettre aux générations futures. Et vous allez le voir, ça va nous demander un logiciel au niveau de l'aménagement du territoire qui sera très différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent. Je pense qu'il y a 4 conditions pour qu'on réussisse ce document. Le premier, c'est tout d'abord faire émerger un projet, un vrai projet, qui soit justifié, argumenté, partagé, et qui va nous permettre de justifier justement auprès des personnes publiques associées, notamment l'État, la vision qu'on a de ce territoire-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'ensemble, enfin l'adhésion, le regroupement des 53 documents existants, mais vraiment un nouveau projet apporté à 53. La seconde condition, c'est de prendre en compte les avis et les demandes des personnes publiques associées, ce qu'on appelle les PPA. Donc au sein duquel on va retrouver l'État, la région, le département de la Loire, mais aussi le SCOT Sud-Loire, les chambres consulaires, les EPCI voisins, les associations environnementales, etc. Et ces gens-là vont aussi, à un moment donné, émettre un avis sur ce document-là. Et au départ, quand on les a associés au niveau de la démarche, ils nous ont fait passer ce qu'on appelle une note d'enjeu, en nous disant, ben, nous, on souhaite que vous travailliez telle thématique. L'État s'est reprend toutes celles qui sont dans le code de l'urbanisme, mais en plus, il nous dit on aimerait que vous les travailliez dans ce sens. Et que donc, si on ne les écoute pas, on aura probablement des avis qui peuvent être plutôt mitigés, voire négatifs. La troisième condition, c'est qu'effectivement, il faudra pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques de la métropole qui existent déjà, et on en a un certain nombre. on a ce que l'on appelle le plan climat air énergie territorial, le PCAET. On a le plan local de l'habitat. On a le plan des mobilités qui est en train d'être révisé. Il va arriver dans les mois qui viennent. De manière plus anecdotique et récent, on a aussi le règlement local de publicité intercommunale qui est notre premier document de planification intercommunale. Mais on a aussi un certain nombre de directions à Saint-Étienne Métropole qui travaillent sur l'économie, l'agriculture, les rivières, les réseaux aujourd'hui, la voirie, l'eau potable, les déchets, etc. etc. Il faudra également qu'on réfléchisse aux risques qui sont présents sur notre territoire. Alors peut-être pas trop sur Saint-Priest-en-Jarez, mais les dernières actualités des semaines dernières nous montrent qu'il y a de forts risques d'inondation, mais également des risques miniers. Et puis, comme tout document prospectif, on ne pourra faire que ce que l'on pourra se payer d'un point de vue financier. Et donc, il faut aussi que cette valeur-ci rentre en compte. Et puis, la dernière condition, c'est tenir compte le plus possible de la réalité des territoires, pour le moins différents, au sein de Saint-Étienne Métropole. Alors, j'ai une autre diapo. Alors, peut-être pas comme ça, mais je vais arriver comme ça. Ouais, c'est celle-là, qui vous montre que notre futur document doit être compatible avec un certain nombre de réglementations. Et vous avez tout en bas le PLUI de Saint-Étienne Métropole, de part et d'autre les politiques métropolitaines. Donc on a le plan des mobilités, le plan local de l'habitat, le plan climat et énergie territoriale. Et au-dessus de nous, eh bien, il y a toute la réglementation nationale, départementale, régionale qui s'impose à nous. Et juste au-dessus, on a une grande barre qui est le SCOT Sud-Loire, puisque le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, est ce qu'on appelle aujourd'hui un document intégrateur qui reprend toute la réglementation qui lui est supérieure et nous dit la façon dont il faut qu'on la prenne en compte. Alors, il y a 4 intercommunalités. Au sud, vous avez la communauté de communes des Monts du Pilat, Saint-Étienne Métropole, et au-dessus de nous, à l'ouest, on a Loire-Forêt Agglomération qui va aujourd'hui jusqu'au-delà de Noirétable. Et puis à l'est, on a Forêt Est qui lui aussi va très loin au niveau du nord puisqu'il va au-delà de Balbigny. Et ça nous fait 198 communes réunies dans un seul document de planification. J'y participe puisque je suis également au titre de Saint-Étienne Métropole, premier vice-président du SCOT Sud-Loire. Et on a d'autres vice-présidents. On a David Farah, qui est le maire du Chambon, qui est présent. On a Patrick Bouchet, le maire de la Fouillouse, qui est également. Et puis, on a le maire d'Andrézieux-Boutéan, qui est également vice-président au sein du SCOT Sud-Loire. Notre vocation a, comme le document l'indique, à traiter du développement durable. Donc, c'est quelque chose que nous demande aujourd'hui le code de l'urbanisme et l'ensemble des réglementations, des lois qui arrivent depuis un certain nombre de temps. Avant de rentrer dans le détail, là aussi, un certain nombre de préambules, peut-être de rappels. Tout d'abord, c'est bien le code de l'urbanisme et son article L151-5 qui nous demande à ce qu'il y ait un PADD à la fois dans les documents communaux, donc vous l'avez également dans votre propre PLU, mais également au niveau des PLU intercommunaux. Et celui-ci doit définir, je lis, les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble du territoire concerné. Et donc ce PADD va définir l'esprit du futur plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un document légal qui doit reprendre un certain nombre de thématiques qui sont demandées par le code de l'urbanisme. Et si on ne le faisait pas, eh bien, il serait entaché d'illégalité et c'est tout le document qui serait fragilisé juridiquement. D'ailleurs, on a un avocat conseil qui relie tous nos documents pour être sûr qu'effectivement on ne soit pas attaqué sur la forme, mais on sait qu'on le sera énormément sur le fond. Ce PADD ne doit pas être très précis, aussi bizarre que cela puisse paraître, car s'il l'était, les évolutions du document seraient difficiles et il faudrait passer par des procédures de révision qui demanderaient des années et beaucoup de travail. Si on reste souple au niveau de l'écriture, on ne va pas s'enfermer et on pourra procéder par de simples modifications pour pouvoir le faire évoluer, des modifications avec ou sans enquête publique. Parce que dès qu'on aura validé notre document, eh bien, il y a forcément des projets qu'on n'aura pas devinés qui vont arriver Et de manière à pouvoir les réaliser, il faut justement faire en sorte que celui-ci laisse ouvert ces possibilités-là. Ce document n'est pas opposable au tiers. Il faut le savoir également. Pour autant, il constitue la pièce maîtresse du futur PLUI et tous les autres documents doivent être en cohérence avec celui-ci. C'est le document de référence pour déterminer si ce qu'on en appelle l'économie générale du PLUI est respectée. Et c'est à partir de ce qui est écrit dans ce document de 25 pages, comme tu le disais tout à l'heure, que bien souvent, il y aura des recours. Je vais vous prendre un exemple. Le PLU de Fécamp, aujourd'hui, est attaqué, alors je ne sais plus où il en est de la démarche, par des personnes qui disent qu'il est écrit dans le projet d'aménagement et de développement durable qu'il faut réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, comme nous, nous allons également l'inscrire. Et il l'attaque en disant que le PLU de Fécamp n'a pas été assez loin dans la réduction du foncier. Pourquoi ? Ben, ils veulent le faire tomber pour que leur terrain qui hier était constructible et qui ne l'est plus aujourd'hui retrouve dans l'intervalle ce caractère constructible. Donc quelquefois on va attaquer les documents avec des portes d'entrée qui sont à l'opposé de ce que l'on veut obtenir. Ce PADD doit également obtenir l'adhésion de tout le monde, puisque, vous le savez, il fait l'objet d'un débat. C'est des grandes orientations, vous allez le voir, hein, c'est quelque chose d'assez consensuel. Et il s'agit néanmoins de débattre, et uniquement de débattre. Le code de l'urbanisme est précis sur ce point-là. Il nous faut juste un procès-verbal, comme quoi il y a bien eu un débat qui s'est tenu au sein de votre conseil municipal, pour justement évoquer ces grandes orientations du PADD. Et il ne s'agit pas de voter, il n'y a donc pas de délibération. Donc ces grandes orientations sont, je le répète, une traduction du projet de territoire, permettre la mise en œuvre des grandes politiques publiques de Saint-Étienne Métropole, mais aussi la mise en œuvre des projets des communes, de la plus grande à la plus petite. Et d'ailleurs, dans la délibération qu'on a prise en décembre 2018 pour prescrire la démarche, on a bien écrit qu'on souhaitait une métropole au développement équilibré. Et la phrase qu'on a écrite, c'est « privilégier dans une vision d'avenir partagée un développement du territoire qui vise à renforcer Saint-Étienne et le corps de l'agglomération, à conforter le rôle des centralités intermédiaires et à maintenir un dynamisme dans chaque commune dans le respect des grands équilibres et priorités. » Ce PADD peut aussi vous sembler contradictoire dans ses orientations. Un exemple, je vais très vite parler de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, dire qu'il va falloir protéger les terres agricoles, et tout de suite après, vous dire qu'il faudra probablement développer l'économie en faisant de l'étalement urbain. Donc ça peut sembler contradictoire. Néanmoins, ce PADD doit concilier toutes les problématiques, tous les enjeux du territoire et donc trouver un équilibre à l'échelle de la métropole. Et enfin, une fois que les 53 communes et que le conseil métropolitain aura débattu, chacun des maires, donc Christian en l'occurrence sur Saint-Priest, pourra, s'il le souhaite, instaurer ce que l'on appelle le sursis à statuer. C'est-à-dire si demain, après tous les débats, quelqu'un pose un permis d'aménager sur un terrain actuellement constructible, mais qui demain, on ne sait, ne répondra plus aux attentes de la collectivité, on peut dire, je prends le sursis à statuer, ce qui, grosso modo, veut dire, j'ai 2 ans plus 1 année, 3 ans au total, pour te rendre la réponse. Ce qui veut dire que d'ici là, le futur PLUI sera entré en œuvre et la réponse sera forcément négative. Ça nous permet d'anticiper et de pouvoir conserver cette possibilité de ne pas mettre constructible des terrains qui demain ne le seraient plus. Alors, ce document-là, on va revenir sur la façon dont nous l'avons construit. Tout d'abord, rappeler que ce PADD, comme tous les éléments du futur PLUI, est un document qui a été co-construit avec les élus. On a fait un certain nombre de rencontres d'un comité de suivi. Alors, le comité de suivi PLUI au niveau de Saint-Étienne Métropole, c'est une bonne quinzaine d'élus qui ont été choisis pour représenter à la fois toutes les typologies de communes, de la plus petite à la plus grande, mais également tous les territoires. Et donc, cette quinzaine de personnes travaillent depuis le lancement de la démarche. On a travaillé avec l'ensemble des élus sur le diagnostic. On a défini un certain nombre d'enjeux. Et ces enjeux ont été traduits en orientation lors de 5 comités de suivi. Elles ont été ensuite présentées en copile des maires, c'était le 5 juillet 2022. On a transmis le document projet à l'ensemble des communes qui ont émis un certain nombre de remarques sur la rédaction en nous disant « ça c'est bien, là vous n'êtes pas allé assez loin, vous avez oublié de traiter ça, ou pourquoi vous traitez ci comme ça, enfin etc. etc. » On a répondu à toutes les remarques des communes, certaines ont été prises en compte, d'autres ne l'ont pas été puisqu'elles étaient à l'encontre de politiques déjà validées au sein de la métropole, et enfin d'autres ne l'ont pas été puisqu'elles ne peuvent pas trouver de réponse au sein d'un document de planification, mais au sein d'autres politiques de la métropole. Un exemple, au niveau de l'agriculture, on nous a beaucoup demandé de protéger des parcelles, chose que l'on peut faire dans un document de planification, mais on nous a aussi demandé de mettre en avant le fait que l'agriculture de demain devrait être plus biologique, plus raisonnée, et ça, ce n'est pas un document de planification qui peut le faire, mais une politique agricole à côté. Ces orientations ont de nouveau été partagées en conférence des maires le 10 novembre 2022, puis en comité de pilotage le 14 décembre 2022 en présence de l'État, et enfin une dernière fois lors d'un copil qui s'est tenu le 17 janvier 2023. À aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'une étape à franchir, c'est les débats au sein de chaque conseil municipal et au sein du conseil métropolitain. Alors, vous pourriez me dire, depuis le 17 janvier 2023, il s'est passé beaucoup de temps. Et effectivement, on avait souhaité faire ces débats dans les communes tout de suite derrière, donc avant l'été ou au-delà de l'été, mais au moins en 2023. J'avais même commencé avec un débat dans un conseil municipal, c'était celui de la ville de Sorbier. Mais notre avocat nous a dit tout de suite arrêter, puisqu'on était insuffisamment précis sur le pourcentage de réduction de la consommation foncière, qu'on était beaucoup trop théorique et que ça pouvait être vu comme une irrégularité et une possibilité de recours contre le futur document. Et vous allez voir aujourd'hui qu'on est beaucoup plus précis dans ce pourcentage-ci, mais qu'il a fallu attendre et que ça ne dépendait pas de nous. Alors, quelle est donc la stratégie métropolitaine en matière d'aménagement du territoire ? Le diagnostic nous a permis d'identifier un certain nombre d'enjeux, et par enjeu, j'aime bien dire que ça peut s'écrire en un seul mot ou en deux mots, en et je, et ça veut dire c'est ce que l'on peut perdre ou c'est ce que l'on veut gagner. Et c'est effectivement ce qu'on a souhaité traduire dans les orientations d'aménagement et de développement durable. Il y en aura 14 qui sont réunies dans 3 grands chapitres, et elles sont en phase avec la délibération de prescription de décembre 2018. J'ai l'habitude de dire que pour qu'un projet soit partagé, il faut qu'il soit en phase avec ce qui fait l'identité profonde de son territoire. Et sur Saint-Étienne Métropole, où on est à la fois rural et urbain, ce sont plutôt l'agriculture et l'industrie, l'industrie de production, qui sont véritablement les deux piliers historiques de ce territoire-là. Et donc, il est tout à fait cohérent de dire que notre premier chapitre sera un territoire au travail, et donc un territoire productif qui doit le rester dans les différents domaines économiques. J'ai parlé de l'agriculture, de l'économie, mais il y aura également l'artisanat, les activités tertiaires, le commerce, la logistique, le tourisme, etc., etc. Il nous faudra également développer l'emploi, fixer les entreprises qui sont déjà présentes et en attirer de nouvelles, prendre également en compte la formation, puisque les étudiants sont les travailleurs de demain, mais un territoire productif qui doit également s'adapter aux changements et anticiper les mutations de son environnement, puisqu'on sait qu'il y aura des évolutions au niveau des conditions économiques, climatiques, écologiques, réglementaires, concurrentielles, etc. Et donner la possibilité de s'adapter et de réussir aux entreprises qui sont à la fois une source de richesse pour nos habitants, mais aussi pour nos collectivités. En second lieu, il nous faut aujourd'hui répondre à des enjeux d'attractivité, mais dans un contexte d'aménagement et de développement durable. Il s'agit donc de croître, toujours. Ça veut dire croître démographiquement, spatialement, économiquement, mais de croître différemment de ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui. En veillant à une consommation des espaces agricoles qui soit raisonnée et non plus au coup par coup, désordonnée, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas une ressource qui est inépuisable, en se positionnant au niveau de la santé, qui demain sera un élément incontournable de tous nos projets d'aménagement, en sachant tirer parti des contraintes pour en faire plutôt des atouts, et enfin en tenant compte des enjeux liés à la mobilité, qui aura une dimension stratégique indéniable, tant les changements sociétaux semblent importants pour demain. Et enfin, ce projet doit aussi nous permettre de continuer à vivre ensemble. Ça sera le troisième chapitre de notre PNT, en mettant en œuvre des conditions qui soient en phase avec les évolutions de la société. Je l'ai dit, notre territoire est à la fois urbain et rural. Il faudra qu'on redonne de l'attractivité à la ville-centre, la ville de Saint-Étienne et aux villes de Fond-de-Vallée, mais aussi conserver l'attractivité de chacune de nos communes. Il faudra diversifier les types d'habitats et les aménagements des espaces publics, réintroduire la nature en ville, valoriser l'existant, je pense plutôt au patrimoine, qu'il soit urbain ou naturel, et mettre en avant la richesse de la biodiversité de ce territoire-là. C'est un projet qui cherche à repositionner l'humain au centre de ce projet, dans toutes ses composantes et centres d'intérêt. Et c'est donc un véritable projet de société à l'échelle de la métropole. Je vais passer maintenant en revue l'ensemble des orientations, les unes après les autres. Et je vais commencer par la première qui concerne l'agriculture et notamment comment accompagner son évolution pour répondre aux besoins de la population et s'adapter aux crises environnementales. On a trois objectifs qui affirment la place centrale de l'économie agricole sur le territoire de Saint-Étienne Métropole et qui sont en lien avec notre projet alimentaire territorial. Il s'agit de préserver la capacité productive nourricière du territoire, d'encourager les potentialités de développement agricole, encourager l'adaptation des pratiques agricoles face aux crises environnementales et aux enjeux de l'alimentation. La conservation des terres agricoles, vous l'avez compris, est importante du fait de leur valeur nourricière, mais également dans un cadre de réservoir de biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. Au niveau du futur PLUI, ce que l'on pourra faire, c'est protéger et mettre des indices de protection au niveau des terres agricoles, soit des zones agricoles protégées, soit carrément ce que l'on appelle des PAEN, qui figent la vocation agricole de ces parcelles sur des décennies et qui permettent aux exploitants agricoles de se projeter dans l'avenir et d'investir durablement. On pourra également dédier des espaces pour l'agriculture urbaine. Alors c'est surtout vrai pour la ville de Saint-Étienne et sa politique de quartier fertile. On pourra instaurer ce que l'on appelle des limites intangibles à l'urbanisation. Au niveau du SRADET, on a repris à l'intérieur, la région a repris ce que l'on appelle le schéma régional des corridors écologiques, qui nous dit qu'il y a sur la région Auvergne-Rhône-Alpes des gros réservoirs de biodiversité et que pour passer de l'un à l'autre, la faune passe par tel couloir qu'il faut protéger. Et donc, c'est généralement des zones qui sont inconstructibles, sauf pour les bâtiments agricoles. Sauf qu'à certains endroits, ces couloirs sont tellement restreints sur quelques dizaines de mètres que même pour les agriculteurs, il ne sera pas possible de construire du fait de ces limites intangibles à la construction qu'on va poser. On va également traiter la question des espaces urbains déjà bâtis en zone agricole ou naturelle. C'est les hameaux, c'est les changements de destination, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les stécales. Les stécales, c'est des secteurs de taille et de capacité limitées. Secteur de taille, d'extension et de capacité limitée. Il nous fera aussi valoriser et développer des espaces de biodiversité, les haies, les mares, les ruisseaux, les arbres remarquables, etc. On a une deuxième orientation qui, elle, concerne le développement économique et comment créer un environnement qui soit propice au développement des forces productives métropolitaines. Là aussi, trois objectifs qui vont nous positionner comme un territoire productif et permettre la mise en œuvre de la stratégie foncière économique de la métropole basée sur le plein emploi.
Il nous faudra accompagner le développement des entreprises en requalifiant les espaces économiques, programmer une offre immobilière et foncière hiérarchisée et qualifiée pour les activités économiques, développer la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des zones d'activité. On a une direction économie, une vice-présidente Nora Berroukesh, qui ont quantifié les besoins du territoire pour tenter d'atteindre le plein emploi et qui ont déjà spatialisé ces espaces économiques futurs. C'est ce qu'on appellera notre schéma d'accueil des entreprises. Et ces éléments ont été présentés aux maires des communes concernées et à l'ensemble de l'exécutif métropolitain lors d'un comité de pilotage qui s'est tenu le 16 mai dernier. Il est composé de trois axes. Le premier, c'est une logique de densification dans les zones économiques déjà existantes, c'est-à-dire d'améliorer leur fonctionnalité et qu'elles retrouvent de l'attractivité. On a un certain nombre de zones économiques qui aujourd'hui sont vieillissantes, un petit peu délaissées, et donc il va falloir réinvestir sur celles-ci dans des équipements publics, des parkings, des voiries, de la signalétique, peut-être faire en sorte qu'il y ait des crèches dans chaque zone économique pour intéresser les salariés. Et il nous faudra également, dans cette idée de réutiliser l'existant et de densifier, réutiliser toutes les friches qui peuvent exister. Et des friches économiques, il y en a un certain nombre sur Saint-Étienne Métropole, notamment sur la ville de Saint-Étienne et les deux vallées, la vallée du Gier et la vallée de l'Andenne. Alors, on a déjà réussi à faire pas mal de choses. Il y en a encore beaucoup, mais la totalité des espaces, des friches économiques ne seront pas forcément voués à l'économie demain. Je vais prendre un exemple que l'on est en train de commencer à travailler. C'est la friche à Corse, alors qui est un peu loin d'ici, mais qui est sur les communes de Fraisse et d'Unieux, qui a fait l'actualité parce que malheureusement, je crois que c'est cette année encore, il y a eu un décès par une jeune fille qui était sur les toits. Donc, ce site-là est abandonné depuis des années. Il a été racheté par Saint-Étienne Métropole via Cap Métropole, justement. Les industriels de l'époque avaient détourné l'Andenne pour avoir plus de terrain pour leur activité. Donc la première idée est de dire qu'il va falloir remettre le lit de l'Andenne dans son lit originel et d'avoir des espaces d'extension de part et d'autre pour faire face aux crues de demain. Et donc ces espaces-là, ça sera peut-être des espaces naturels, des espaces végétalisés, des espaces de détente pour les populations qui habitent là-bas. Les communes de Fraisse et d'Unieux souhaitent également qu'il n'y ait pas que de l'activité économique sur ces zones-là. Et donc, au final, sur à peu près 8 hectares, il n'y en aura que 4 demain qui seront concernés par de l'économie. Donc, à moitié de ce qui existe aujourd'hui. Et ça sera la même chose au niveau de la friche d'Uralex, par exemple, sur la commune de Rive-d'Ogier. L'axe 2, c'est de dire que l'on peut convertir des zones urbaines, non économiques, qui existent aujourd'hui, qui sont parfois dégradées, délaissées, à proximité ou non de zones économiques déjà existantes, et qu'on peut transformer en zone économique. Et l'exemple le plus parlant, c'est la zone Pierre-Loti, qui est en face du CHPL, où il y avait des barres d'immeubles qui étaient là, qui ont été déconstruites, et aujourd'hui, on a un village. On a une zone économique avec des artisans, et ça a eu un grand succès. C'est des choses qu'on pourrait donc reproduire sur différents secteurs de la métropole, mais aussi récupérer des espaces publics, des équipements publics vieillissants qui pourraient intéresser au sein des centres urbains, des artisans, voire peut-être des petites PME. Néanmoins, on a fait le tour de ces deux axes et on a vu, et on le savait pertinemment avant même de commencer, que les solutions apportées par ces deux axes ne seraient pas suffisantes et qu'il nous faudra probablement passer par un troisième axe, donc par la création d'une offre nouvelle en extension, pour accueillir d'une part des projets industriels qui seraient importants. C'est des choses qui ont pu être faites sur Nova Syrie, par exemple. On a l'INAMAR qui est arrivé avec plusieurs centaines d'emplois, mais aujourd'hui on a des tènements immobiliers au niveau des friches qui sont insuffisants, et de toute façon on ne pourrait pas mettre n'importe quel type d'industrie au sein d'une ancienne friche. Il y a des règles, il peut y avoir des sites qui sont protégés, ICPE, il peut y avoir des sites Céveso. Et donc, il faut des espaces qui soient plutôt éloignés des centres d'habitat. Et il nous faudra aussi créer des zones économiques pour accompagner l'économie de proximité, les artisans, les TPE, les PME, dans une logique de maillage territorial, toujours pour rechercher cet équilibre territorial. Mais la recherche du foncier devra être justifiée, et justifiée notamment en fonction des besoins. Au niveau de l'orientation qui suit, elle concerne l'activité tertiaire. Alors, pardon, je vais peut-être reprendre dans l'ordre, celle qui concerne le commerce. Et donc, l'idée qu'il nous faut aujourd'hui conforter une armature commerciale équilibrée et anticiper les phénomènes de mutation et de vacances immobilières. Là aussi, dans un souci d'équilibre commercial global à l'échelle de la métropole. Donc, ce que l'on souhaite, c'est maintenir, développer, adapter le commerce de rez-de-chaussée dans les centres-villes et les centres-bourgs. Donc là, au niveau des documents d'urbanisme, on pourra avoir, par exemple, des linéaires de protection, délimiter des quartiers à vocation commerciale, mais aussi maîtriser le développement des zones commerciales de périphérie déjà existantes. Pour rappel, dans le SCOT d'aujourd'hui, celui qui est en vigueur, il était mentionné que ce que l'on appelle les ACOM, les zones commerciales, ne puissent pas accueillir plus de 25% de mètres carrés supplémentaires par rapport à celles qui existaient au moment où le SCOT a été validé. Ce SCOT est en cours de révision et dans celui qui devrait être arrêté cette fin d'année et validé l'année prochaine, il sera indiqué qu'à l'échelle de la métropole, dans ces centres commerciaux de périphérie, il ne devrait pas y avoir la création du moindre mètre carré de surface commerciale nouveau. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une nouvelle enseigne, il faut qu'il y en ait une qui disparaisse. Et sur Saint-Étienne Métropole, nous n'avons aujourd'hui qu'une seule surface commerciale qui est vacante, c'est Alinéa, sur Villars. Il faudra également chercher à maintenir les commerces multiservices et les restaurants dans les bourgs des communes rurales, limiter le commerce de proximité à côté des grands axes routiers qui se développent beaucoup aujourd'hui au détriment des commerces de centre-ville, et puis stopper le développement des grandes bases logistiques, puisqu'on estime au niveau de Saint-Étienne Métropole et des autres PCI, et donc au niveau du SCOT Sud-Loire, qu'il y en a déjà suffisamment autour d'Andrézieux, et qu'il faut plutôt aujourd'hui se préoccuper du dernier kilomètre, de la logistique du dernier kilomètre, avant d'accueillir de grandes bases comme celle-ci. Au niveau de Saint-Étienne Métropole, on a un schéma du développement de l'urbanisme commercial, le SDUC, qui est en résonance avec un document du SCOT Sud-Loire, qui est encore un peu plus long, c'est le DACL, c'est le document d'aménagement artisanal commercial et logistique du SCOT Sud-Loire. L'orientation qui suit est liée au patrimoine bâti et paysage, qui nous demande à le mettre en valeur. Une orientation qui se décline en quatre objectifs. Préserver et mettre en valeur les singularités du patrimoine paysager. Valoriser le patrimoine architectural comme un vecteur de projet identité du territoire. Qualifier le patrimoine urbain porteur de l'image du territoire. Et enfin, promouvoir le tourisme urbain et rural vecteur de changement d'image. C'est donc faire du patrimoine un vecteur de projet d'identité et d'attractivité du territoire, en le protégeant. Donc, il est possible de protéger le patrimoine urbain, si vous le souhaitez, en repérant sur la carte de votre commune des endroits que vous souhaiteriez conserver. Un peu comme ce qui s'est fait autour de la gare Château-Creux, où la façade de l'ancien hôtel de la gare a été conservée dans l'immeuble qui est en train d'être construit. Ça peut être également en mettant en œuvre dans certaines communes ce qu'on appelle des sites patrimoniaux remarquables. Il y en a 5 sur la ville de Saint-Étienne, mais il y en a également à Rive-de-Gier, à Saint-Galmier, à la Chartreuse et dans d'autres endroits. Il peut y avoir également du patrimoine paysager. C'est vous qui pouvez décider, si vous aviez des parcs, de les conserver. Si vous aviez dans des propriétés des arbres remarquables, de chercher à les protéger, etc., etc. On passe dans le second chapitre, donc croître autrement. La première orientation concerne la sobriété foncière et va engager la métropole dans une dynamique foncière sobre. On a 4 objectifs pour répondre aux exigences de la loi Climat et résilience qui date de 2001. Tout premier objectif, transmettre aux générations futures un patrimoine paysager, naturel, agricole, alimentaire et forestier. C'est le lien avec l'orientation que je viens de développer précédemment. Appuyer le développement du territoire sur un urbanisme circulaire au sein de l'enveloppe bâtie. La loi Climat et résilience nous parle du zéro artificialisation nette en 2050. C'est-à-dire qu'il va falloir anticiper le fait de refaire la ville sur la ville, mais aussi d'ores et déjà de réemployer autant que peut se faire le bâti déjà existant et les matériaux récupérables. Mettre en œuvre une stratégie foncière, c'est-à-dire amplifier le recyclage, réduire l'artificialisation pour répondre aux besoins sur le long terme. Et donc, il faut penser sur le moyen et long terme et non pas agir trop souvent comme nous l'avons fait précédemment, au coup par coup, sans avoir de projection dans l'avenir. Et l'État nous demande depuis des années d'utiliser une séquence qu'il appelle ERC pour éviter, réduire, compenser. Et c'est une séquence qui existe dans la loi française depuis 1976. Donc ça va faire pratiquement 50 ans. Et aujourd'hui, tous les projets doivent passer à la moulinette de cette séquence. Je fais partie, au niveau de la commune de Marcenau, d'un petit syndicat de la piscine du Val d'Onzon, sur Sorbier. Et donc, on a une piscine qui est hors d'âge, qui est inutilisable aujourd'hui. Hein. Il pleut à l'intérieur. Donc, c'est une piscine tournesol qui date des années 70. Donc, il faut qu'on la refasse. Et donc, on a cherché des financements. Et le premier rendez-vous qu'on a eu avec le préfet de l'époque, bah, il nous a posé la question, est-ce que vous pouvez éviter de refaire une piscine ? Est-ce que vous ne pouvez pas aller dans les équipements déjà existants ? Donc, il a été facile de lui démontrer qu'il y avait un nombre insuffisant de piscines sur notre territoire. Ensuite, est-ce que vous pouvez le réduire ? Est-ce que vous pouvez enlever les toboggans, les jeux d'eau ? Alors, ça tombait bien, on n'avait pas l'argent pour se les payer, donc on n'en a pas mis. Mais il nous a dit, vous avez prévu un parking de 100 places. Est-ce que vous ne pouvez pas le réduire de moitié et utiliser des parkings d'autres équipements, même s'ils sont à plus de 100 mètres ou 500 mètres ? Parce qu'il y avait des choses qui existaient déjà. Et ensuite, il nous a dit, bah, comment vous allez compenser ? Parce que cette piscine, vous allez le faire sur du terrain aujourd'hui à vocation agricole. Bon, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc déjà, ne pas imperméabiliser le moins possible, de faire des noues pour récupérer les eaux pluviales, de planter plus d'arbres qu'il n'y en avait, etc., etc. Donc aujourd'hui, il faut bien s'inscrire dans cette séquence, éviter, réduire, compenser. Et le quatrième objectif, c'est modérer la consommation de ces fameux espaces naturels, agricoles et forestiers pour préparer le territoire à la perspective du zéro artificialisation net en 2050. Et comme vous allez le voir, il faut qu'on s'en préoccupe rapidement parce que plus on attend et plus ça va être difficile et l'éventuelle chute n'en sera que plus dure. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on a fait au niveau du PLUI ? Eh bien, on a demandé de travailler aux communes, mais de repartir d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on a fait abstraction du document qui existait. On a apporté une feuille qui représentait le territoire de la commune de Saint-Priest uniquement avec les zones déjà urbanisées. Et on vous a demandé quels étaient vos projets qu'il fallait traduire dans ce qu'on appelle une opération d'aménagement et de programmation. C'est-à-dire la vision que vous aviez de votre commune à 10, 15 ans. Les équipements qui vous manquaient, les densifications que vous vouliez peut-être revoir et voir si ces projets pouvaient se faire au sein de l'enveloppe urbanisée. Et puis, accélérer la transformation. Donc, on parle de transformation des villes et des bourgs, de densification, de renouvellement. Et donc, voir ce qu'il était possible de faire, là aussi, à une échelle d'à peu près une quinzaine d'années. Et puis ensuite, si ça ne rentre pas dans l'enveloppe urbaine existante, eh ben mieux cibler et justifier l'étalement urbain, mais bien justifier, puisque demain, il faudra que tout nouveau projet en extension soit argumenté et justifié. Ce que l'on souhaite faire également au niveau de Saint-Étienne Métropole, c'est privilégier la consommation foncière pour l'économie, puisqu'on souhaite que nos habitants aient du travail. Et donc, s'il faut qu'il y ait de l'étalement urbain, ben, il sera donné prioritairement à l'économie avant de penser à l'habitat, sachant qu'il y a aussi bon nombre d'équipements souhaités par les communes ou la métropole. Les communes, ça peut être une nouvelle piscine, Sorbier par exemple. Ça peut être un nouveau gymnase, ça peut être une station d'épuration, ça peut être plein de choses. Et donc là aussi, ça représente quelques dizaines d'hectares. Et enfin et seulement, réfléchir à l'habitat et proposer, puisque ça sera une obligation, de nouvelles façons d'habiter. Et je vais passer maintenant à une diapo qui est peut-être... Alors, je ne sais plus dans l'ordre, c'est pas grave. Donc, on est sur la réduction du foncier, et notamment ce que l'on appelle la loi climat et résilience. Elle date de 2021, elle n'est pas très vieille, et elle nous demande, dans la décennie dans laquelle on est, donc depuis 2021 jusqu'en 2031, de réduire notre consommation de moitié par rapport à la période de référence qui était 2011-2021. Et donc, on a un outil pour ça qu'on appelle le MOS, pour modèle d'occupation des sols, qui a été mis en œuvre par les 4 agences d'urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc celle de Saint-Étienne, de Grenoble, de Lyon et de Clermont-Ferrand. Et donc, on va mesurer entre 2011 et 2021 combien nous avons consommé de foncier. Le MOS nous indique 625 hectares. Et donc, la loi nous dit qu'il faut réduire de moitié. Et donc, si on réduit une moitié, on tombe déjà à 312,5. Sauf que l'État nous a dit, moi, je vais avoir une réserve foncière pour des projets d'ambition nationale. Si demain, il y a une nouvelle ligne TGV à grande vitesse, les gens qui seront dans le train ne seront pas ceux uniquement où les rails sont posés. Si demain, il y a une nouvelle centrale nucléaire qui va exister, il devrait y en avoir une qui va se déployer dans l'Ain, l'énergie qui va être produite ne va pas intéresser que les communes où elle sera positionnée. Et donc l'État nous a dit, ben moi je vais prendre quelques dizaines de milliers d'hectares pour ces projets d'envergure nationale et ils seront partagés entre tous les territoires. Ce qui veut dire que le pourcentage de réduction, il n'est plus de 50%, mais de 54,5%. Et donc, le plafond foncier auquel on peut prétendre n'est plus que de 285 hectares. Sauf que la loi permet également aux régions de territorialiser la réduction de la consommation foncière. Et donc, on pourrait imaginer que la région Auvergne-Rhône-Alpes nous dise, ben moi, au niveau de la plaine Saint-Exupéry, j'ai des grands projets. Il y a de grands projets autour de la ville de Genève, mais plutôt en France. Donc, je vais moins réduire la consommation là-bas. Et puis, ben, tant pis pour les autres départements. Hein. Eux seront amenés à plus réduire. Et ben, la région n'a pas pris cette décision-là. Elle a dit, je vais faire 50% partout, mais je vais faire comme l'État. Je vais prendre une ponction foncière de plusieurs milliers d'hectares pour les projets d'envergure régionale. Et ces quelques milliers d'hectares seront supportés par tout le monde. Et donc, au niveau du SCOT Sud-Loire, le pourcentage qui s'applique sur nos 4 EPCI est de 56,6%. Donc, le plafond foncier n'est déjà plus que de 272 hectares. Et on va plutôt prendre ce pourcentage de 56,6%. Mais il pourrait peut-être être amené à évoluer, puisque la région, si elle respecte la loi climat et résilience, devrait finaliser son projet de SRADET révisé pour cette fin d'année. Mais ça sera plutôt en début d'année prochaine. Et lorsqu'elle nous avait présenté son premier projet, nous avions émis un certain nombre de remarques en lui disant que c'est bizarre, mais sur la Loire, il n'y a aucun projet d'envergure nationale, ni même régionale. Et que la zone, la ZAIN, qui est une zone d'activité d'intérêt national, n'était ni dans l'un ni dans l'autre, alors qu'il y avait quand même des zones économiques de petite importance qui étaient retenues au minimum au niveau régional. L'aéroport de Saint-Étienne non plus n'était pas retenu, alors qu'il y a quelques hectares qui pourraient se développer autour pour de l'activité aéroportuaire, alors que d'autres aéroports, style celui du Puy-en-Velay, étaient retenus au niveau de l'intérêt régional. Donc on espère que ça puisse évoluer et que ce pourcentage serait revu à notre bénéfice. Mais ce n'est pas fini, puisque la loi nous demande d'appréhender la consommation foncière depuis le lendemain où la loi a été promulguée, donc depuis 2021. Et d'une manière globale, ce que l'on observe, c'est que la consommation se poursuit sur le même rythme, puisque ce sont les mêmes documents qui sont à l'œuvre. Et donc, ceci étant là, il y a du terrain constructible et on continue à l'utiliser tel qu'il est possible. On estime néanmoins que le territoire Sud-Loire a déjà commencé à réduire sa consommation. Alors, comme partout, il y a le Covid qui est passé par là. Il y a également la cherté des matériaux de construction et les taux d'intérêt qui étaient un peu élevés ces derniers temps. Mais c'est surtout dû, on espère, aux PLU communaux que nous avons révisés depuis 2014, c'est-à-dire depuis que le nouveau SCOT est exécutoire. Et donc, sur certaines communes qui ont révisé leurs documents, on a déjà réduit cette consommation et que les PLU étant calibrés pour une dizaine, une quinzaine d'années, on arrive déjà au bout de l'exercice sur ces communes qui ont révisé leurs documents d'urbanisme. Et dans les autres, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est des documents très anciens qui, là aussi, arrivent au bout de l'exercice et il y a peu de terrain constructible sur certaines communes. On peut dire qu'une partie du chemin est parcourue, mais l'objectif qui nous est assigné de réduction de 50% est loin d'être atteint. Alors, pour pouvoir travailler sur ce document, on n'allait pas recalculer tous les 6 mois ou tous les ans quelle était la consommation foncière. Et on est parti d'une hypothèse de dire qu'au moment où on allait arrêter le document, nous n'aurions consommé que 60% de l'enveloppe foncière théorique. Et donc, ça voudrait dire qu'entre 2021 et 2025, nous aurions consommé 164 hectares sur les 272 qu'il restait à consommer et donc qu'il nous restera entre 2025 et 2031 que 108 hectares au niveau du PLUI sur la première décennie. Cependant, et c'est important, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour demander une évolution de la loi. Donc localement, c'est Saint-Étienne Métropole, Loire-Forêt Agglomération, le SCOT Sud-Loire. Au niveau national, il y en a également beaucoup, dont l'Association des maires de France. Et il semblerait que tout le monde ait été un peu entendu et qu'il devrait y avoir des évolutions. Pourquoi ? Puisqu'on calcule à partir de 2021 avec des documents qui permettent aucune réduction potentielle. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse déplacer la date à partir de laquelle on va commencer à calculer cette consommation pour faire en sorte qu'on reste à 272 hectares, mais qu'on diminue les 164 et donc qu'on augmente les 108. Mais attention, ce n'est qu'un souhait. Ce n'est pas le cas encore actuellement. Si j'avance un peu, on peut te demander quelle est la consommation pour la décennie qui va suivre, 2031-2041. La loi, là aussi, demande à ce qu'il y ait une réduction de la consommation foncière, mais sans parler de pourcentage de réduction. Et là, d'un point de vue communément validé en France, mais aussi au niveau du SCOT Sud-Loire, on va prendre 50% de retenue. Et ça relève de notre devoir de compatibilité avec le SCOT Sud-Loire. Mais on partirait seulement des 312 hectares qui sont ici. On ne tiendrait pas compte du taux national de réduction ni du taux du SRADET, puisqu'ils n'en sont prévus que sur la première décennie. Et donc, on aurait, entre 2031 et 2041, environ 156 hectares à consommer. En synthèse, ça veut dire que le plafond du foncier mobilisable dans le cadre du PLUI, donc jusqu'en 2041, serait de l'ordre de 264 hectares. Donc 264 hectares entre 2025 et 2041, un peu plus de 15 ans, alors que précédemment, sur une seule décennie, nous en avons consommé 625. C'est vous dire la hauteur de la marche qui nous reste à franchir. Et en plus, ces 264 hectares sont à ventiler sur deux périodes, pas plus de 108 hectares actuellement jusqu'en 2031, et pas plus de 156 entre 2031 et 41. Ça, c'est les valeurs obtenues en l'état de nos connaissances actuelles juridiques. Mais elles pourraient être amenées à évoluer si demain il y a des projets d'intérêt nationaux, voire régionaux, qui sont retenus, et si la loi climat et résilience évolue. Et cette loi a déjà évolué depuis 2021. Il y a eu une première loi au mois de juillet 2023 pour faciliter sa mise en œuvre, qui a notamment garanti un hectare constructible par commune. Mais cet hectare peut être déjà consommé, et encore faut-il qu'il soit justifié. C'est-à-dire que dans les communes où il y a des possibilités de densification et d'encreuse importantes, eh bien, il n'existe pas cet hectare universel. Et puis, il y a eu la circulaire Béchu en début d'année, qui n'est pas très vieille, mais qui n'est qu'une circulaire et qui n'a pas de valeur juridique et qui est déjà attaquée par les associations environnementales. Mais cette loi Béchu, par exemple, nous disait, formalisait le pourcentage de rétention foncière qu'on pourrait appliquer à chacun des territoires à hauteur de 20%, mais surtout indiquait que toutes les zones d'activité liées à l'habitat ou à l'activité économique déjà commencées physiquement en 2021 seraient considérées comme intégralement artificialisées dès le départ. Et que donc, par exemple, la ZAIN autour d'Andrézieux-Boutéon, il y a encore 40 hectares constructibles dans cette zone d'activité qui ne seraient pas calculés dans la consommation. Donc ça apporte un peu de souplesse, mais attention, ce n'est qu'une circulaire qui est déjà remise en cause et on pense que d'ici la fin de l'année, il devrait quand même y avoir des évolutions juridiques qui devraient amener un peu de souplesse. Mais attention, il y a aussi ce point-là. C'est-à-dire qu'on a pris comme hypothèse de travail que nous n'aurions consommé que 60% du potentiel consommable d'ici 2025. Et que la loi climat et résilience demande également à ce qu'il y ait, alors je ne sais plus le terme qu'ils utilisent, mais une mesure de la consommation foncière tous les 3 ans. Donc la loi étant de 2021, il faut le faire en 2024. Alors d'un commun accord avec tous les EPCI du SCOT Sud-Loire, on a dit à l'État qu'on attendrait 2025 puisqu'on aura de nouveau une vision satellitaire du territoire et que le MOS pourra nous dire précisément combien nous avons consommé. Mais si nous avons consommé 80% au lieu des 60%, ça sera négatif pour nous. Si je poursuis après avoir plombé l'ambiance de la soirée par les autres orientations, si peu, je passe aux orientations qui suivent. La prochaine concerne la santé. Donc 4 objectifs pour un objectif qui soit un urbanisme favorable à la santé. Donc un enjeu majeur de société et un paramètre incontournable de nos projets d'aménagement et des orientations qui souhaitent une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de nos habitants. C'est faire des secteurs impactés par des risques et des nuisances, des secteurs d'innovation urbaine pour protéger les habitants. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de la Frichet Corse, qui aujourd'hui est dans un plan de prévention des risques d'inondation. Si on met des espaces d'extension au niveau de l'Ondaine pour faire des parcs, des jardins, des lieux de détente, eh bien, on aura utilisé des secteurs à risque pour en faire autre chose. Il faudra aménager et préserver des zones de rafraîchissement pour lutter contre les chaleurs estivales et contre les îlots de chaleur urbains. C'est adapter notre territoire au réchauffement climatique et notamment introduire beaucoup plus de végétal dans tous nos projets d'aménagement à venir ou dans les espaces déjà existants. Il faudra également inciter les habitants à pratiquer les marches à pied ou tout autre mode de déplacement actif par des aménagements d'espaces publics favorables à ces pratiques. Autrement dit, intégrer tous les modes de déplacement dans les espaces publics dès qu'on aménage un secteur et un lien sera fait avec le futur plan des mobilités. Et enfin, proposer un cadre de travail épanouissant et résilient face aux crises. Le Covid-19 a bousculé un peu nos habitudes de travail. Le télétravail, le coworking est passé par là et il faudra que notre futur document de planification intègre cette nouvelle dimension. L'orientation qui suit parle des risques, la gestion des risques dans les aménagements et les constructions. Donc, comme la précédente, c'est une orientation qui pointe la capacité de résilience de notre territoire. Donc, savoir tirer parti des contraintes pour en faire de nouveaux outils. C'est par exemple dans les zones d'aléas miniers, notamment dans la zone de l'Ondaine, faire des espaces protégés pour l'agriculture, mais que ces terrains-là soient au moins utiles, puisque chaque mètre carré aura une valeur. donner systématiquement une valeur d'usage au terrain contraint par les risques, c'est ce que je viens de dire, contribuer à l'atténuation des crises environnementales. Ce que peut faire le PLUI à son échelle, c'est prendre des mesures pour ne pas aggraver le dérèglement climatique et, par exemple, chercher à limiter les déplacements pour limiter les gaz à effet de serre. Et enfin, protéger la population et les acteurs du territoire des risques majeurs et accroître la résilience environnementale du territoire. La dernière orientation de cette diapo nous demande de créer les conditions d'une mobilité durable. Donc une orientation qui sera complétée par le plan des mobilités, mais déjà avec des axes assez forts, puisqu'il s'agira de mettre en cohérence le développement urbain et l'offre de transport en commun. Ça veut dire intensifier les fonctions et les usages autour des points modaux et multimodaux, mais ça ne veut pas dire ne plus construire dans les communes qui sont mal desservies à aujourd'hui. Apaiser les voiries en favorisant les modes actifs, le report modal et les chaînes de déplacement. Développer le fret durable, c'est justement la question de la logistique du dernier kilomètre. Et faire des infrastructures de transport des éléments de couture plutôt que de coupure urbaine. On a effectivement un poète au sein de la direction planification, mais ça veut dire qu'il faut apaiser les voiries et surtout avoir des nouvelles possibilités de franchissement de certains axes très linéaires, tels que les voies ferrées, la RN88, la 47, etc. On entre ensuite dans le troisième chapitre, donc mieux habiter ensemble. Le premier de ces orientations parle de la production de logements et consiste à consolider les villes en déprise et préserver le cadre de vie des villages. On retrouve là deux objectifs sur le volet qualitatif de la politique logement et habitat de Saint-Étienne Métropole, et ce n'est pas des nouveautés, puisque c'est déjà présent dans tous les plans locaux de l'habitat que nous avons déjà validés par le passé au niveau du Conseil métropolitain. Deux objectifs, donc. Le premier, c'est la mise en cohérence de la production de logements avec l'armature territoriale définie par le SCOT Sud-Loire. Alors, le SCOT revient ici, puisque c'est lui qui définit l'ambition démographique du territoire. C'est lui qui dit, dans le Sud-Loire, je pense que d'ici 2050, nous aurons tant de milliers d'habitants supplémentaires. Et que pour habiter, pour que ces gens-là habitent ce territoire, il faudra produire tant de logements. Et comme on note également un fort niveau de décohabitation, avec moins de gens dans les logements aujourd'hui qu'hier, il faudra produire également tant de logements. Et le SCOT les répartit également territorialement. C'est-à-dire qu'il a fait, il a défini une armature territoriale à 5 niveaux. Donc il y a la centralité Sud-Loire, qui est la ville de Saint-Étienne, plus la commune de Saint-Priest, parce que vous êtes déjà bien desservi en transport en commun et parce que vous avez le CHU sur votre territoire. Ensuite, on a les centralités Sud-Loire. On a, par exemple, Rive-de-Gier, Saint-Chamond. On a également Firminy, mais aussi Andrézieux-Boutéan. Et un peu plus loin, c'est Fort et Montbrison-Savigneux. On a des collectivités d'intérêt un peu en dessous. C'est par exemple Roche-la-Molière, Grand-Croix, le Chambon-Feugerolles. On a d'autres collectivités, encore un petit peu en dessous. Proche de chez vous, c'est la Talaudière-Sorbier. Et puis, on a toutes les autres collectivités qui sont dessous. Et donc, en fonction de l'étage dans lequel on est, eh bien, on aura droit d'avoir plus ou moins de nouveaux logements. Et quand on parle de nouveaux logements, ce n'est pas de nouvelles maisons, mais c'est bien de nouveaux logements. Alors, vous êtes plutôt urbain, mais par exemple, chez moi, où je suis très rural, la maison juste en face de la mienne a brûlé. Il y a eu un accident, elle a brûlé. Les propriétaires qui étaient âgés ont dit, on ne va plus habiter cette maison. Ils ont déménagé, d'autant plus que la dame est malade et qu'elle doit avoir des soins journaliers. Eh bien, dans la maison qu'ils avaient, ils vont faire aujourd'hui 2 appartements. Et donc, sans consommation de terrain, sans rien faire, j'ai un nouveau logement sur la commune de Marcenau. Et donc, le nombre de logements est ensuite repris dans ce qu'on appelle le plan local de l'habitat de Saint-Étienne Métropole, qui nous dit, commune par commune, le nombre de logements possibles par an sur la durée du PLH. un PLH durant à peu près entre 6 et 8 ans. Celui qui est en cours devait s'arrêter cette fin d'année, 2024, et il sera prorogé jusqu'en fin 2026. Et donc, au niveau du PLUI, pour calculer le nombre de logements auxquels vous avez droit, et donc l'étalement urbain, il faut aussi qu'on compte ce que vous avez en capacité de densification. Est-ce que vous avez des grandes parcelles qui peuvent être découpées ? Est-ce que vous avez beaucoup de logements vacants qui pourraient être remis sur le marché, etc., etc. Le second objectif de cette orientation, c'est la poursuite et la mise en œuvre du renouvellement urbain et la lutte contre la vacance de logements. Donc c'est la reconversion des friches, des tènements dégradés, des espaces libres, y compris dans les centres-villes, et comme je l'ai dit, la réhabilitation du bâti ancien et la lutte contre la vacance. L'orientation qui suit nous entraîne sur les problématiques de mixité et de diversité de l'habitat et demande de mettre en œuvre la qualité et la diversité bâtie au sein de nos préoccupations. Et ces deux objectifs sur le volet qualitatif de la politique de l'habitat et du logement de Saint-Étienne Métropole qui sont à mettre en œuvre dans chaque commune et dans chaque quartier. Tout d'abord, en développant une qualité d'habité à l'échelle du territoire qui réponde aux attentes des habitants et aux enjeux contemporains. Il y a eu de nombreuses études qui sont passées après le Covid. Il y en a eu une également au niveau du SCOT Sud-Loire. Et toutes arrivent sur la même conclusion sur ce que veulent demain les habitants. La première chose qu'ils veulent, c'est un extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas revivre le Covid dans un appartement où il n'y a que des fenêtres. Et quand ils parlent d'extérieur, pour les citadins, c'est un balcon ou une terrasse. Ce n'est pas forcément une pelouse et un jardin. La deuxième chose qui est souhaitée, c'est qu'il y ait autant de places de stationnement qu'il y a de véhicules dans le foyer. Et la troisième chose, c'est que les logements soient évolutifs. C'est-à-dire qu'il y a autant de chambres à un moment donné qu'il y a d'enfants dans la maison, mais que par la suite, les cloisons peuvent être tombées et donner lieu à des espaces beaucoup plus grands. Et à part ça, c'est très éparpillé au niveau des revendications. Et enfin, garantir la mixité sociale aux différentes échelles et permettre le parcours résidentiel sur la métropole. Donc des parcours résidentiels qui s'entendent avec des logements locatifs, des logements sociaux pour les jeunes ménages et les personnes âgées, un habitat qui soit également inclusif pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Et dans ce chapitre-là, il faudra également qu'on prenne en compte l'accueil des gens du voyage. Dernière orientation de cette diapo, elle concerne le patrimoine naturel à consolider comme le pilier du cadre de vie des habitants, avec trois objectifs pour préserver les espaces agricoles naturels, renforcer la qualité des milieux et les valoriser comme des vecteurs d'attractivité. Le second, sur la nature en ville, préserver et rendre accessible, développer la nature en ville, support de lien social et de qualité de vie, voire d'alimentation. Et enfin, la place de l'eau dans les projets urbains et mettre l'eau au cœur de ces projets urbains en protégeant les cours d'eau et leurs épicilles, mais aussi en accompagnant les projets de découverture des cours d'eau dans les centres-villes. Et ironie du sort, la veille des inondations dans la vallée du Gier, et il y a eu un comité de pilotage qui a validé la découverture du Gier dans le centre-ville de Rive-de-Gier. Mais ça va demander des années, pour ne pas dire des décennies, et des dizaines de millions d'euros. Ce n'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. La diapo qui suit, les deux dernières orientations. L'avant-dernière nous invite à développer et aménager des lieux de rencontre, de vivre ensemble et de convivialité. Trois objectifs pour, premièrement, faire de la métropole un territoire des proximités. C'est créer la ville du quart d'heure, mais comme vous l'avez compris, comme nous serons dans un projet d'aménagement où la densification va être importante, créer les conditions d'une densification qui soit harmonieuse. Puis créer ou aménager des espaces publics favorables à la vie sociale et à l'attractivité des quartiers pour favoriser le vivre ensemble, l'accès à des espaces récréatifs, à des jardins, à la nature. et enfin préserver une offre de services et d'équipements au plus près des habitants. Dernière orientation pour finir, optimiser l'usage des ressources naturelles du territoire avec 6 objectifs. Respecter le cycle de l'eau à l'échelle du territoire, donc garantir un équilibre entre tous les usages anthropiques de l'eau. Et le PLUI peut justement garantir l'adéquation entre les ressources et les besoins, en par exemple ne permettant pas dans un premier temps de rendre constructibles des parcelles qui ne seraient pas desservies ou insuffisamment desservies en eau potable. Pour améliorer la gestion des eaux pluviales, l'actualité nous rattrape. Favoriser les économies d'énergie, c'est notre plan climat Air Énergie Territoriale de Saint-Étienne Métropole qui demande, comme la loi l'exige aujourd'hui, la réduction de la consommation, l'amélioration de l'efficacité des consommations, mais surtout l'accroissement de la production d'énergie renouvelable sur notre territoire. Il faudra également valoriser la ressource en bois local. Quand vous parlez aujourd'hui à des géographes, on ne parle plus de bois ou d'espace boisé, on parle de puits de carbone. Donc dans la région, il y a beaucoup d'exploitations forestières, donc il faudra toujours permettre cette exploitation et la gestion forestière. Et enfin, développer l'économie circulaire des matériaux, qu'ils soient pour les professionnels ou à destination des particuliers. Et j'en ai fini.
Avant de libérer Gilles, qui a maintenant une réunion à la Talodière, je crois. Voilà, le même travail. Si vous avez quelques questions particulières sur ce qui vient d'être exposé avant qu'on ait, nous, un débat au sein du Conseil, n'hésitez pas.
C'est exactement ça. Qu'ils ne s'inscrivent pas dans le PADD ou qu'ils ne s'inscrivent plus dans les projets de la commune. Parce que quelquefois, les documents d'urbanisme sont très anciens, ne correspondent plus aux volontés d'aujourd'hui ou aux équipes municipales en place, qui veulent faire autre chose d'un terrain constructible, puisqu'il aura énormément de valeur demain. Quand je dis valeur, à la fois financière, hein, mais aussi en termes de prospective d'aménagement du territoire, quoi. Tout à fait. Par le passé, c'était déjà possible, avec 2 années. Et la loi de 2023 sur les outils de mise en œuvre de la loi climat résilience a rajouté une 3e année, justement pour que les projets qui tomberaient aujourd'hui, qui respecteraient les documents communaux en vigueur, eh bien, puissent être freinés, arrêtés, en attendant qu'on réfléchisse et qu'on ne garde que ce que l'on veut véritablement voir demain, quoi. Parce que, vous l'avez compris, c'est une révolution, quoi. Oui, ça sera à la discrétion du maire. Quand je dis à la discrétion, je m'entends. Hein.
D'autres questions, remarques, précisions ?
Alors, localement, ça dépend des municipalités et de ce qu'elles veulent faire sur leur territoire communal. Là, c'est plus une réflexion d'ensemble. Quand je vous parlais des vallées du Gier, des vallées de l'Ondaine et tout ça, on a, par exemple, au niveau de la région, un cheminement cycliste qui est prévu pour faire toute la vallée du Gier, toute la vallée de l'Ondaine. C'est-à-dire une vraie piste cyclable qui pourra traverser toute la métropole. Il y a des projets en réflexion sur 2, 3, voire 4, 5 communes pour créer un vrai trajet cycliste pour aller d'un point à un autre, quoi. Mais ça peut être tous les aménagements communaux. Alors, chez vous, c'est un peu particulier. Ça monte un peu et ça descend un peu, quand même. Donc, il y a des choses qui pourront se faire et pas d'autres, quoi. Oui.
Michel, pour répondre à ta question, il y aura peut-être à terme le projet de développement d'aménagement de la Doie, parc paysager urbain. Après, on verra bien comment il évolue. Ça ne sera pas avant la fin du mandat, ça, c'est une certitude. D'autres questions?
Ça peut être une très belle plaine de jeu, le site de la Doie.
Oui, puis en plus, il y a le Rio Tor, qui est une petite rivière qu'on peut découvrir, etc.
Oui, je m'en suis occupé sur le mandat précédent, puisque ça faisait partie de ma délégation, et j'ai découvert qu'il y avait même des exploitants agricoles sur le site de la Doie.
Absolument, il y a une exploitation agricole. Oui.
Plein d'enjeux aquatiques, oui. On va dire.
C'est sur le territoire de Villars. Ben, il nous reste à te remercier de cette présentation. Je pense quand même que, au-delà du contenu, pour l'ensemble des élus, on parle souvent de ce qui se passe à Métropole, on voit la grande maison. On n'imagine pas, je dirais presque au quotidien, l'ensemble de ces enjeux que tu viens de présenter et leur interdépendance. On a récemment, à plusieurs reprises, évoqué le devenir de la place Massenet. Moi, je me disais mécaniquement, on coche beaucoup de paramètres que tu as évoqués. Après, il y a l'attitude aussi des commerçants, des habitués, etc. Mais voilà, ça, c'est un véritable projet à enjeu qui s'inscrit dans les plans de mobilité, dans les modes doux de déplacement, etc., dans la réflexion du cadre de vie pour tout de suite, mais surtout pour demain. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos habitants. Ce qu'on décide aujourd'hui, c'est pour demain. Vous l'avez vu, là, on va déjà mécaniquement jusqu'en 2035. Et au-delà, même parfois, puisque, bon, par exemple, le zéro artificialisation, c'est 2050. Donc voilà, notre rôle, c'est aussi de dire, il y a le quotidien, puisque c'est ce qu'on doit gérer, et au-delà même des échéances électorales, et puis il y a l'ensemble des grandes décisions. Vous avez aussi compris qu'il y a la métropole, il y a le SCOT, il y a le SRADET, etc., etc., etc. Et tout ça doit être conforme, je dirais, à l'idée que l'État peut s'en faire. On sort bien notre cadre de strictement communal. Sur le plan de mobilité, on aura l'occasion d'en reparler, il y a le développement du nœud ferroviaire autour de Saint-Étienne et relations avec la Plaine, avec Roanne, avec la Haute-Loire et avec Lyon. Là aussi, ce sont des gros enjeux en termes de mobilité, d'évolution de notre cadre de vie. Et je pense quand même qu'après cette présentation, vous comprenez mieux les enjeux pour aujourd'hui, demain et surtout après-demain. Merci à toi. Rémi, tu t'en vas là, non? Donc vous avez compris, là on a une présentation, je dirais, objective et technique. De Gilles Tizy. Moi, je l'admire parce que gérer sa commune, gérer les vice-présidences qu'il assume au sein de la métropole, la vice-présidence du SCOT, et tourner dans les communes comme ça, ou avec des enjeux qui sont totalement différents, c'est un travail qui doit être particulièrement dense, parce qu'il faut qu'il maîtrise l'ensemble des processus réglementaires et législatifs, et c'est un travail qui est remarquable. Donc, je le remercie déjà. Alors maintenant, le débat, bon, vous l'avez vu, hein, il y a tout un ensemble de dispositions qui définissent un cadre de vie, des enjeux. Et je dirais que, alors bon, après, je vous écouterai, il n'y a pas de souci, mais on ne peut être que d'accord avec l'ensemble de ces préconisations et de ces orientations. On ne va pas dire demain, on veut plus de pollution, voilà, etc. Plus d'une détérioration de notre cadre de vie, ça me semble être une évidence. Et la difficulté, alors il y a le PADD, mais qui en fait sert de base au PLUI, c'est le PLUI qu'on sera amené à voter au niveau local et après au niveau métropolitain, vraisemblablement avant la fin de la mandature, je vous rappelle qu'à la fin de la mandature, c'est pour potentiellement mars 2026, et le préfet avait dit en bureau des maires, si vous n'avez pas été capable d'aboutir à un PLUI avant fin 2025, après c'est l'État, donc la préfecture, qui prendra la main, et en particulier sur la gestion de tous les permis de construire, mais vous avez compris que quand on parle d'urbanisme, le PLUI, ça va bien au-delà d'un simple permis de construire ou de lotir. Et donc, la véritable difficulté, c'est que le cadre est tellement général et complet, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur le cadre de vie, que ce soit sur l'emploi, qu'on ne peut être que d'accord. Et je dirais pas le risque, mais la difficulté, ça va être après, une fois que ce PADD va être validé et derrière va permettre de développer un certain nombre de plans PLUI, le plan local de l'urbanisme, le plan de mobilité, qui s'imposeront, eux, à l'ensemble de nos populations, ça va être de dire attention qu'un jour on ne soit pas en porte-à-faux entre une décision ou un projet, et on nous dira, mais non, attendez, le projet, il s'intègre totalement dans le PADD. Il était bien prévu dans le PADD que c'est tellement vaste, tellement large, qu'on ne peut pas, en le regardant, et là vous avez une synthèse, là, vous avez eu les documents, il y a un autre document qui sera consultable, si vous voulez, qui fait 25 pages, qui va beaucoup plus loin dans le détail, et vous comprenez bien que c'est un petit peu un fourre-tout, on pourra tout y mettre. De toute façon, il y a une problématique qui n'a pas été évoquée. Toutes ces affirmations, toutes ces orientations, elles vont avoir un coût. Elles vont avoir un coût. Quand Michel dit qu'il faut développer des parcs, des promenades, etc., ça sera au détriment des constructions. Donc ça veut dire qu'une commune, quand elle aura un immeuble à raser, elle le rasera et elle fera un parc. Donc ça sera à fond perdu, entre guillemets, d'un point de vue budgétaire. Bon, après, en termes de qualité de vie, ça sera autre chose. Donc il y a tous ces enjeux. Moi, la satisfaction que je tire de toutes ces... D'abord, ils font un travail remarquable, la métropole. On peut critiquer la métropole sous beaucoup d'aspects, mais il y a des vice-présidences qui font des travail vraiment remarquable sur le fond, parce que ces gens-là gèrent aussi leurs communes, et bien souvent des petites communes. Et ce qui moi, m'intéresse, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est obligé de se poser des questions sur l'avenir. Aujourd'hui, on gère notre quotidien, mais tout ça, ça nous amène à demain. Donc ça ne sera pas pour nous, ça sera pour nos enfants, nos petits-enfants, nos autres populations. Tous les enjeux, quand ils disent on va arrêter la possibilité de créer des grandes plateformes logistiques, il y en a suffisamment autour d'Andrézieux. Là où il y a des friches industrielles, il faut les requalifier. Ce n'est pas la peine d'aller construire des usines là où on peut en reconstruire. Ben voilà, c'est tous ces enjeux-là qui me semblent très importants dans la réflexion. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse dire « je ne suis pas d'accord hein, ». Voilà. Et nous, encore, on n'y est pas confrontés parce qu'on n'a pas franchement de zones rurales, mais moi je le vois au niveau métropolitain, et Michel peut le dire aussi, on a des maires de communes rurales qui ont deux attitudes. Soit de dire, je veux artificialiser pour développer mon village, pour sauver mes commerces, pour sauver mon école, donc je veux des habitants, des constructions, etc. Et à l'inverse, on a d'autres maires qui disent, non, non, surtout pas, nous on veut continuer à maintenir notre activité de production agricole et surtout pas de foncier chez nous. Voilà. Et tout ça, il faut le rendre conciliable au niveau des 53 communes. Et puis des 4 intercommunalités, et puis de la région, et puis de l'État. Donc c'est une succession de filtres, et on se rend compte qu'in fine, ce qu'on décide, y compris nous, demain, au niveau de la validation d'un PLUI, c'est une marge de manœuvre qui est très très étroite. Très 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 étroite. Quand le SCOT dit, ils ont défini 5 niveaux d'intercommunalité, il dit, bon, par exemple, l'intercommunalité la plus importante, c'est Saint-Étienne et Saint-Prié. Pourquoi Saint-Prié? Parce qu'il y a le CHU et la fac de médecine. Donc, on est le tram et tout ce qu'on veut. On est quelque part comme un quartier de Saint-Étienne. Ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire. On est assimilé à Saint-Étienne d'un point de vue urbain, d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue mobilité, transport en commun, etc. On le voit bien. Et tous ces enjeux sont là. Alors pour nous, est-ce que c'est une force ou pas? Je ne sais pas, parce que derrière, le SCOT va dire, sur ce premier groupe, cette première centralité, Saint-Étienne-Saint-Prié, c'est 600 logements par an. Un exemple, hein, parce qu'on est à 2040-2050. Il faudra créer 40-50 000 logements d'ici là. Pourquoi? On ne sait pas, peut-être qu'il y aura moins de population. Mais peut-être qu'il y en aura davantage, puisqu'au contraire, le but, c'est de faire de notre territoire quelque chose de plus attractif. On dit, on est, je crois, à 25 000 étudiants. L'objectif, c'est de passer à 40 000. Donc, ces étudiants, il faudra bien les accueillir, leur faire des propositions, etc. Donc, il y a des gros enjeux. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Hein. Il y a des principes qui sont posés. Et c'est à partir de ces hypothèses que les travaux qu'on vous a présentés se mettent en place. Mais après, c'est passionnant, quoi. Et par contre, comment demain, on dira voir Saint-Étienne pour dire, voilà, sur les 600, nous, on en prend 50 par an. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas construire 50 logements par an à Saint-Prié. Bon, et à l'inverse, certaines communes, on leur dit, par exemple, les communes rurales, je me souviens, je crois que c'était à Fontanay, il avait une obligation de construire 10 logements par an. Il dit, ben, moi, c'est bon, il y a Loire Habitat qui est venu, on va me faire un petit immeuble de 6 logements, c'est nickel. Ils ont le foncier et tout. Et puis, 6 mois après, Loire Habitat vient, dit, non, on a calculé, c'est pas rentable, on ne le fait pas. Voilà. Comment un maire peut dire, voilà, demain, je vais faire 8, 10, 15, 50 logements par an. Après, il y aura une réflexion globale. Mais déjà là, attention, parce qu'on dit, oh, mais ça sera globalisé, ça sera au niveau de la métropole, etc. Non, ça ne se passera pas comme ça. Alors, pour l'instant, ce sont des pistes de réflexion, on est bien d'accord. On peut suspendre une décision sur un permis de construire, on l'a vu. Bon, en disant, on va sursoir à statuer. Bon, ça veut dire qu'en fait, on dit non. Mais on ne dit pas non tout de suite. On dit, on va gagner 3 ans pour dire non dans 3 ans parce qu'on appliquera le PLUi. Mais à un moment donné, ces enjeux-là, ils nous dépassent un petit peu parce qu'on n'est pas capable, nous, d'aller se projeter au-delà de certaines échéances. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, je vous écoute par rapport à cette...
Moi, je suis d'accord avec toi, Christian, sur la vision à très long terme. Mais moi, je resterai plus pratico-pratique. Comment on va dire aux gens vous n'aurez plus le droit de construire des maisons parce que vous avez envie d'habiter dans une maison avec un petit bout de jardin et tout, puis vous allez revenir dans les centres-bourgs. Je ne sais pas ici s'il y a beaucoup de gens autour de la table qui auront envie de retourner de vivre à Saint-Étienne. Je veux dire, on prend peut-être un petit peu la charrue avant les bœufs et on aurait peut-être dû commencer par essayer de rendre les centres-villes un peu plus attractifs, refaire venir du commerce, essayer de faire des appartements, parce que moi, j'ai un âge où je me rappelle quand j'étais petite, j'habitais Saint-Étienne, et quand on habitait rue Balaï, on avait des appartements bourgeois, c'était magnifique. Qui a envie maintenant de vivre dans un appartement rue Balaï, au deuxième étage, où vous ne voyez jamais la lumière du jour? Donc, je veux dire, on a aussi une évolution de la société, et c'est encore un peu comme, moi, ce que j'appelle l'écologie punitive. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens à l'économie, à l'écologie, comme il faut sensibiliser les gens au fait qu'effectivement, il faut dans l'urbanisation, on voit bien les problèmes de trafic entre la plaine du Forêt et Saint-Étienne tous les matins et tous les soirs. C'est une réalité. Mais comment on peut expliquer que pendant des années, on a laissé faire ça et que les gens sont contents d'habiter parce qu'ils sont prêts à faire des bouchons, enfin, à subir les bouchons matin et soir, parce que quand ils sont chez eux, ils sont tranquilles, ils ont un bout de terrain. Voilà. Mais voilà, moi, je pense que c'est un peu... Et je me mets à la place des maires ruraux. Je pense qu'il y a des maires ruraux, dans quelques années, ils n'auront même pas besoin de se représenter, parce que si on supprime les terrains... Moi, j'ai travaillé très longtemps dans une commune rurale et j'ai bien vu 2-3 fois comment on faisait à l'époque les plans d'occupation du sol. Dès qu'on mettait une barrière et qu'un terrain n'est constructible et pas l'autre, c'était... évidemment, vous perdiez 10%, enfin 100% ou 200% de la valeur du terrain. Donc voilà, moi, ce que je reproche un peu, c'est que c'est des très belles idées, c'est des très belles orientations, mais dans les années à venir et tout de suite, je ne suis pas sûre que ce sera facile à mettre en place et que ça correspondra vraiment à la nouvelle façon de vivre des gens. Et voilà, est-ce que les gens ont envie de revenir en collectif quand on voit comment se passe le vivre ensemble? On en entend beaucoup parler. Quand on écoute les informations, on se voit que le vivre ensemble n'est pas forcément quelque chose qui se passe toujours très bien. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à ce genre de choses. Il y a des grandes phrases, il y a des très beaux principes. Mais dans le pratico-pratique, je ne vois pas trop comment ça va se dérouler. Enfin, je souhaite que les gens soient heureux comme ça, mais j'en suis pas si sûre.
Je pense qu'à l'échelle de Saint-Prié, moi j'ai travaillé dans le comité technique de pilotage du PLUi, là, ça fait depuis le début du mandat, moins le Covid, et Bernard Charrière y avait travaillé avant, donc c'est un gros travail qui a été fait. Et c'est vrai que Gilles Tizi et les gens qui l'entourent, qui sont les gens des purs, ont conduit une réflexion qui est brillante et remarquable, humaine et profondément humaniste. Demain, si on veut attirer des jeunes talents sur la région, des chercheurs au niveau de l'école de médecine et tout, il faudra donner un environnement et un produit qui soit de la qualité de ce qu'on a, nous, la chance d'avoir à Saint-Prié. Et les choses évoluent déjà, c'est-à-dire que moi, je serais moins pessimiste que Michel. Il y a des bâtiments qui évoluent, il y a des bâtiments aujourd'hui où on renforce le dernier étage et on fait des rooftops, des jardins partagés sur les toits. Il y a des espaces sur Saint-Étienne qui sont des espaces, des friches industrielles qui deviendront des jardins, comme tu l'évoquais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives. Ce projet, il est complexe. Moi, j'ai beaucoup appris à leur contact. Hein. J'ai énormément appris parce qu'on a pas mal travaillé. À l'échelle de Saint-Prié, les conséquences qu'il y a eu, c'est on a travaillé sur les arbres remarquables. On a travaillé sur les bâtiments remarquables. Après, les réserves foncières de Saint-Prié, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a 300 hectares. Il doit y en avoir. Voilà, donc il y a quelques réflexions qui ont été conduites sur faut-il garder du terrain en réserve pour le CHU, qu'est-ce qu'il faut. Mais c'est des problèmes qui restent un petit peu à la marge sur notre commune. Et les enjeux généraux qui ont été développés sont très, très intéressants, très positifs. Après, pour les services, à l'avenir, quand ils vont instruire un permis en collaboration avec Saint-Étienne Métropole, juridiquement, il faudra fermer les fesses parce que ça va être compliqué, assez compliqué. Le PADD est complexe, tout est complexe, et il y aura évidemment en face des recours de promoteurs qui seront assez virulents. Il faudra être très, très prudent. Leur travail va être compliqué, mais ça vaut le coup. Compliqué pour la ville de demain, dans 20 ans, dans 30 ans, ça vaut le coup d'avoir des outils pareils. Et la ville évoluera, c'est évident. Et les jeunes gens évoluent dans le travail, évoluent dans l'habitat. On voit aujourd'hui ce qui va se faire à Jean Massé. Il y a des grandes terrasses. Il y a pour vendre, ils font des terrasses de 2,50 m de large. C'est déjà dans l'air du temps, tout ça. Voilà.
Merci, Jacques. Moi, je partage l'étude. L'étude est très belle. Les principes sont remarquables. Il y a des bonnes idées. Après, je me demande juste le copier-coller sur le terrain et sur les spécificités de chacun des territoires. J'entendais tout à l'heure finalement qui disait les grandes parcelles, diviser les grandes parcelles. Est-ce qu'on a tous envie que nos territoires ressemblent finalement à certaines communes, certaines collines qu'on voit autour de chez nous? Avec des collines densifiées, avec X maisons au mètre carré, et qui dénaturent le paysage. C'est pareil, je suis tout à fait d'accord aussi avec toi. Je me disais aujourd'hui, qui a envie de retourner en centre-ville? Je ne pense pas que ce soit des idées partagées. On le voit bien, la notion de bien vivre ensemble, elle est même compliquée dans nos petites communes. Donc moi, j'adhère aux idées qui sont forcément données à travers ce document. Maintenant, la mise en pratique, j'émets quand même certaines réticences parce que j'ai peur qu'effectivement, on soit confronté après à des choses sur lesquelles on aura validé le PLUI, ce qui est normal, mais derrière, on risque d'être confronté finalement à des changements de territoire et à se retrouver des territoires qui sont que des copier-coller de ce qui se fait à côté. Et on risque de perdre finalement l'âme et la spécificité de notre territoire.
vrai que le dossier est remarquable, il est très bien fait, et ça je rejoins ce que dit Jacques, il faut quand même le faire, c'est quand même un travail de longue haleine, il a été très bien fait et bien réalisé, et M. Tizi connaît bien son sujet, sur le bout des doigts. Maintenant, je fais allusion aussi à la plasma SNEC que l'on a vécu, qui est un projet qui est remarquable aussi, qui est très très beau. Par contre, il faut se trouver après en face des commerçants qui, eux, ne le verront pas de la même attitude en se projetant dans les 15 ans. Ça, ils ne savent pas. Eux, ils regardent le lendemain. Ils regardent leur tiroir caisse, excusez-moi, mais quand on est commerçant, on regarde son tiroir caisse et ils ne regarderont pas au-delà. Il faut qu'ils clôturent leur année. C'est ce que c'est toi aussi, hein. Tu connais, tu les vois, les entreprises, hein. Moi je l'ai vécu. Donc voilà, ça aussi, le projet multimodal, il est très beau. Il est très beau. Mais c'est encore l'élu de mairie de Saint-Prié qui va être confronté à ce problème pour expliquer. Alors, peut-être pas d'ici la fin de la mandature, mais peut-être la prochaine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et si on écoute M. Tizi, bon, c'est vrai que ce projet va être acté. On n'a pas trop de recours. Pas trop. Hein? C'est un projet qui a été un petit peu... On nous le présente en nous disant, voilà, c'est un peu... Voilà, il y a peut-être quelques petites entorses, mais pas énormément. Pas énormément.
Moi, je trouve que c'est un beau projet, mais qui sera difficile à mettre en place sur les 53 communes. Et puis, ce que je regrette à nouveau, c'est qu'on crée un nouveau millefeuille. Alors, on est contre les millefeuilles au niveau administratif, mais on en crée un nouveau avec le SRADEC, le SI, le SA, enfin, plein d'organismes. Oui, mais on leur donne encore plus d'importance aujourd'hui, voilà.
Ouais, moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque, en fait, moi, je suis bien pour les espaces verts. Bon, la commune de Saint-Prié, effectivement, il n'y a plus beaucoup d'espace pour les constructions, donc c'est un petit peu limité maintenant. Maintenant, je crois que effectivement, il y a un travail conséquent sur ce dossier. Ça, il ne faut pas le nier. Et puis, on peut pas revenir en arrière, parce que si on voulait revenir en arrière, eh bien, on remettrait à la place de la DOA eh bien, les espaces maraîchers, on remettrait tout ça, la place de la terrasse telle qu'elle était avec tous les commerces il y a 40 ans. Mais on peut pas. Donc, c'est comme ça. Et si on peut améliorer les choses, c'est pas mal. De toute façon, rien ne sera parfait. Mais je crois qu'on est obligé aujourd'hui d'avancer en fonction de la situation actuelle. Voilà, c'est tout.
Oui, mais moi, je partage aussi l'avis de Michel. Je trouve que c'est quand même... Il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est un petit peu utopique. Et malheureusement, c'est la mentalité des gens qu'il faudrait changer. Et ça, c'est plus du vivre ensemble, c'est du chacun pour soi aujourd'hui. Alors, comment avancer? Ça, c'est pas évident. C'est compliqué.
On peut être que d'accord sur tout ce qui a été dit, en fait, sur cette présentation. Tous ces millefeuilles, ce n'est pas des millefeuilles. D'abord, c'est des outils. Des outils très compliqués, d'ailleurs, qu'on doit utiliser. Par exemple, on a participé à quelques ateliers avec Métropole. Je pense par exemple avec Claude, avec Jacques, on a participé par exemple sur ce qu'on appelle les corridors écologiques. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un corridor écologique. On s'aperçoit qu'une commune, ce n'est pas un îlot au milieu d'un océan. C'est un ensemble qui est interconnecté, que ce soit pour la nature, que ce soit pour les pistes cyclables, que ce soit pour les transports en commun. Et ça, si on ne développe pas, on vous casse-pipe en fait, quoi. on a des enfants, on a des petits-enfants. Même s'il faut commencer très, très petit, il faut quand même commencer ces choses-là pour que nos enfants aient au moins une vie au moins aussi agréable que nous, sinon mieux, quoi.
Oui, moi je voudrais dire il y a deux points quand même qui m'inquiètent un tout petit peu. Alors, je ne parle pas pour la commune de Saint-Priest-en-Jarret, mais on est tout de même en devoir de raisonner aussi en termes de métropole. Et je pense à la ville-mère de Saint-Étienne. Vu l'habitat existant, moi je préconise qu'on prenne un gros bulldozer et qu'on reconstruise tout, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir... et avec la crainte que... Dans le futur, avec les quelques nouvelles constructions qui vont être normées à ce qui a été dit, on exagère encore beaucoup la différence au niveau du coût, au niveau de la dépréciation de l'ancien habitat par rapport à l'habitat nouveau. C'est le premier point. Et le deuxième point où là, on est concerné sur Saint-Priest, c'est qu'encore une fois, on fait abstraction de la loi SRU. C'est-à-dire, on dit, il faut construire, point final. Ben, oui, on construit. Construisons. Si, par exemple, comme Christian le disait, si on nous demande de construire 20 logements, oui, ben, ouais, mais quid de la loi SRU. Il n'y a aucune obligation de construire du logement social, et pourtant, il y a obligation d'en avoir. Je résume un petit peu, mais c'est exactement ça. Et ça, jamais on en parle quand on parle de l'obligation de construire. Voilà.
Oui, ben, pour ma part, je pense que le travail est formidable. Il est pensé en fonction du bien-être de chaque citoyen. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'on perd un peu le pouvoir de décision. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, on est obligé de faire ce qu'ils nous disent. Et oui. Et donc, et en plus, moi, le coût, qui va payer des parcours de santé, par exemple, comme disait Michel, je sais pas. Voilà, c'est ce que je regrette un peu. Mais bien sûr, le travail, sur le papier, c'est formidable.
Alors, simplement une précision. Nous, on siège à Métropole. Quand on dit « il », c'est nous. C'est 53 communes. Alors oui, c'est une entité, c'est une grosse mécanique. Il y a un pouvoir décisionnel souvent qui nous échappe. On ne sait pas quels sont les bons interlocuteurs. La nature a horreur du vide. S'il n'y a pas une réponse politique, il y aura une réponse administrative. Pour autant, Saint-Étienne Métropole, c'est nous. Ce sont les 53 communes. C'est pour ça qu'on a un débat ce soir. C'est pour ça qu'on aura le PLUI. C'est pour ça qu'on a régulièrement des sollicitations sur la présentation de Saint-Étienne. Il ne faut pas l'oublier non plus. Moi, ce que je veux dire par là, par rapport à d'autres positions que j'ai entendues passer, il vaut mieux être dedans pour essayer de faire dépasser le curseur un tout petit peu que d'être à l'extérieur, les bras croisés, et attendre que ça se passe. C'est un point de vue.
Moi, je partage évidemment les avis qui ont été dits précédemment, là, notamment le fait que c'est du positif. Il y a beaucoup de choses qui sont positives dans la manière de voir l'avenir et de gérer le vivre ensemble. Mais effectivement, je pense qu'on est aussi actuellement dans un dilemme, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut qu'on réagisse quasiment immédiatement par rapport aux effets du climat, etc. Donc on voit bien qu'on ne peut pas de toute façon ne rien faire, quoi. Donc on est...
Je ne sais pas, vous aurez l'occasion de vous replonger dans les chiffres qui sont donnés sur la période de référence 2011-2021, la base, et après ce qu'on doit consommer jusqu'en 2031 et 2041. En fait, il n'y a pratiquement plus rien. C'est 25% de notre potentialité qui reste jusqu'en 2031. Ça veut dire qu'à la limite, si demain les services instructeurs en termes d'urbanisme de Saint-Étienne, parce que là aussi on a perdu notre pouvoir décisionnel, hein, ça part à Saint-Étienne. Après, même si le maire il dit avis favorable ou avis défavorable, c'est sur instruction des services de métropole. Ça veut dire qu'arriver aux 165 hectares consommés, point, il n'y a plus rien qui passera. Alors là encore, on peut discuter, on peut réfléchir, et entre communes et la métropole, ça peut se discuter. Si demain c'est l'État, ils diront 165, au dossier qui suivra le 165e accord, ça sera fini. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et ces chiffres sont très importants. Parce qu'on nous demande de réfléchir à demain, en référence à 10 ans écoulés 2011-2021, et on nous dit, bah, depuis 2021, vous avez déjà consommé 60%, il vous reste 40%. Et après, chacun dit, mais moi, je me garde 10%. On peut le comprendre, hein, projet d'État, projet de la région, etc. Et au bout du compte, c'est pas un hasard si en ce moment on voit beaucoup de projets qui fleurissent sur les communes. Ça pousse de partout. C'est pas un hasard. Parce que dans beaucoup de communes, on s'est dit, voilà, il faut y aller, parce qu'après, quand le couperet va tomber, ça va faire mal. Pouvoir clôturer ce débat, parce que c'est un débat, c'est un échange, hein. Après, on pourra toujours en reparler. Je ferai une petite synthèse pour faire remonter à la métropole, et on va pouvoir, si vous le voulez bien, se consacrer au conseil municipal. Alors, contrairement aux autres fois où on fait le conseil, et après, je vous donne des informations diverses. Je crois qu'il y en a certains qui voudraient partir tôt. Je vais vous donner trois informations avant de commencer le conseil. Donc, la première, c'est que j'ai eu un courrier de la préfecture qui me dit qu'ils ont reçu une demande d'abattage des arbres dans le cadre de l'alignement de Pierre Mendès France. Donc, si sous un mois, le préfet ne s'y est pas opposé, ils pourront commencer dans le cadre de la préparation du terrain pour la piste cyclable. Comment ? Ils seront replantés, mais là, c'est l'autorisation d'abattage. Deuxième chose, avec Antoine, on est allé à la préfecture. Alors là, je me tourne vers Gilbert et Rémi. Vendredi à 18h, il y a l'inauguration du musée d'art moderne et contemporain rénové, à 18h. Et, je ne sais pas si vous le savez, mais à 20h, il y a une grande animation, puisqu'il y a trois concerts sur l'esplanade. Ça va être des concerts assez intéressants, puisque c'est, alors je vous dis pas de bêtises, de la musique techno, de 20h à 1h du matin. Donc de 20h45 à 22h15, c'est DJ 7 Nadia Fuchsia. De 22h15 à 23h15, live Can Blaster. Et de 23h15 à 1h, DJ 7 Glitter 55, 2000 personnes attendues. Avec des trams qui arriveront spécifiquement de la ville. Voilà, je vous le dis. Donc concrètement pour nous, on a eu une réunion préfecture avec les pompiers, la police, la préfecture. Nos policiers seront mobilisés, ils devaient se rapprocher de ceux de Villars. Le parking de la Doua sera réservé, bien sûr, au stationnement. J'ai bien peur que la sécurité du musée sous-estime la taille de l'événement. Alors, ou bien il n'y aura pas grand monde, ou il y aura beaucoup de monde, ils ne pourront pas le gérer. Bon, mais voilà, c'était une information. Et la dernière, vous savez que jeudi soir, c'est Halloween. Donc, ce n'est pas des enfants qui sont venus me dire un bonbon ou un sort, non. C'est le sous-préfet qui m'a écrit et qui a remis en cause la subvention qu'on avait obtenue dans le cadre du fonds vert. Je vous rappelle qu'on avait obtenu 1 110 150 euros, et son message me disait: bonsoir monsieur le maire, vous aurez finalement 1 776 240 000 euros, soit 666 000 euros de plus que ce qui était prévu. Voilà, vous avez eu peur, hein. Voilà, c'était quand même une très bonne nouvelle. On ne me demandait pas où ils sont allés les chercher, peut-être qu'il y avait des sous-enveloppes dans le fonds vert plutôt dédiées aux écoles, etc. Mais bon, alors là aussi, hein, j'ai fait comme au mois de juillet, je lui ai tout de suite répondu immédiatement, en lui disant merci, c'est super, etc. Non, mais voilà. Non, mais c'est quand même important, parce que je ne m'y attendais pas du tout, hein, à cette belle nouvelle, donc pour l'école Jules Verne. Et de ce fait, alors vous avez 660 000 euros, concrètement, ça veut dire que pour nous, on va réduire d'autant la sollicitation de Saint-Étienne Métropole, mais ce faisant, comme on va moins demander à Métropole, puisqu'on a eu plus de subventions de la région et de l'État, on se rouvre, et on va en parler tout à l'heure, des possibilités dans le cadre d'un autre projet pour aller chercher le plan de relance. Voilà, c'était ce que je voulais vous donner comme information hors conseil. Et donc, on va pouvoir commencer maintenant au conseil. Je vais demander à Mireille Patia si elle est d'accord pour faire le secrétariat du conseil, puisque Mireille n'est pas là. Et on va commencer donc par Alors, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, vous l'avez eu, vous l'avez lu, vous l'avez relu, bien évidemment. Il y a des observations par rapport à ce procès-verbal du mois de septembre ? Non ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour l'adoption ? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Sur les points, comment ? Oui, je veux dire les procurations, effectivement. Nous avons les procurations suivantes. Pascal Convert donne procuration à Christine Gezins. Marie-Jeanne Scherrer à Claude Bruno. Hugo Rodriguez-Souza à moi-même. Mireille Papin à Michel Bizassia. Corinne Mourgue à Rémi Mounier. Pierre Achard à Jacques Pellegrin. Claude Bougot à Paul Wolf. Et Christophe Talia à Antoine Di Paolo. Et Raymond Repellini à Gilbert Zavrosa. Voilà. Beaucoup d'absents encore. Pourtant, ce n'est plus les vacances, mais c'était comme ça. Premier point. Eh oui. Premier point, donc, c'est l'état des décisions du maire que vous avez eu sous forme d'un tableau. Donc voilà, je ne vais pas les commenter. C'est l'ensemble des décisions qui ont été prises dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées. Je n'ai pas vu de décision particulière à commenter, si vous voulez. Donc, on peut passer, puisque de toute façon, il n'y a pas d'approbation sur ce point-là. Le deuxième point, c'est... comment dirais-je, avec la CAF de la Loire, donc la Convention territoriale globale, CTG, 2021-2025, est conclue entre la CAF, la Caisse d'allocation familiale de la Loire, et la commune de Saint-Priest-en-Jarret, et arrive à échéance au 30 décembre 2025. Mais elle n'est pas conclue qu'avec Saint-Priest-en-Jarret. Une nouvelle CTG doit être signée avec la CAF. Le même périmètre sera conservé pour cette seconde convention, donc périmètre qui comprend les communes de Roche-la-Molière, Villars, Saint-Priest-en-Jarret, Saint-Genélaire, Létras et la Tour-en-Jarret. Je vous rappelle qu'au départ, on était sur 11 communes, là, on a réduit à 6. Le contrat enfant-jeunesse donc, a été remplacé par une convention territoriale globale, CTG, avec la CAF, sur un périmètre élargi à plusieurs communes. Cette CTG est précédée d'une évaluation de la précédente CTG, qui court donc jusqu'en 2025, et d'un diagnostic de territoire ayant pour objectif la définition d'un projet social de territoire. Elle devra tenir compte, cette évaluation, de l'ensemble des problématiques en associant l'ensemble des acteurs concernés en interne et en externe, habitants, associations, collectivités territoriales, etc. Un des enjeux de l'évaluation est de mettre en exergue la coopération existante et celle à développer entre les acteurs, étant essentiellement les collectivités territoriales. Afin de pouvoir réaliser ce diagnostic à l'échelon supracommunal, un marché public est constitué entre les 6 communes, dont le coordonnateur est la ville de Saint-Priest-en-Jarret, je vous l'avais expliqué. On a eu plusieurs étapes, avec une commune qui avait désigné un coordonnateur au sein de son personnel, qu'on cofinançait, ça n'a pas abouti. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher effectivement un prestataire. Et lors de notre dernière réunion à Saint-Genélaire, quand il s'est agi de savoir quelle était la commune qui allait porter ce contrat, personne n'était candidat. Donc moi, ça m'a énervé. Au bout d'un moment, je dis, nous, on y va, on prend, et puis on va s'en occuper. Donc, pour réaliser ce diagnostic, c'est le marché public, donc c'est le coordonnateur, ça sera la ville de Saint-Priest-en-Jarret. À ce titre, elle sera référente de ce marché public et signera la convention d'objectifs et de financement avec la CAF de la Loire. Chaque membre du groupement participera au financement de cette étude selon les modalités prévues à l'article 5 de la convention constitutive du groupement de commande, déduction faite de la participation financière de la CAF de la Loire versée à la commune de Saint-Priest-en-Jarret au titre de la réalisation de ce diagnostic. Concrètement, ça veut dire que la CAF financera 50% du coût de l'étude de diagnostic et les 50% restants seront répartis entre les 6 communes. Alors, il y a eu un long débat. Est-ce que c'est au prorata du nombre d'habitants ou est-ce qu'on divise par 6? Bien évidemment, les petites communes disaient on ne veut pas diviser par 6. Donc, ce qu'on a proposé, c'est que pour la moitié des 50%, ce soit fait au nombre d'habitants et l'autre moitié, donc les 25%, divisé par 6. Et tout ça, ça porte à chaque fois sur 250 ou 300 euros. Bon, voilà. Bon, enfin, bref. Et donc, je vous demande de bien vouloir approuver l'adhésion de la commune au groupement de commande et l'adoption de la convention constitutive du groupement désignant la ville de Saint-Priest-en-Jarret comme coordonnateur. m'autorise à signer la convention constitutive du groupement de commande ainsi que tous les actes qui y sont rattachés et dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront prévus au budget. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on ait une structure extérieure aux communes et à la CAF qui fasse un diagnostic de cette première CTG qui court jusqu'à fin 2025 et qui nous prépare à la détermination, à la définition d'une nouvelle CTG, un nouveau contrat territorial global. Des questions par rapport à ça? Donc ça nous fait un petit peu plus de travail, mais au moins on avance, parce qu'on avait déjà perdu 18 mois à tergiverser avant de signer la CTG en 2021. Des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le principe de porter cette convention, est adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est la question de la cession de la salle de l'atelier. Dans le cadre de la convention opérationnelle signée avec l'UPORA par délibération 24-05-05 du 14 mai 2024, le conseil municipal a décidé de faire substituer la commune dans ses obligations d'acquérir les biens auprès de l'UPORA par la société A2S IMO. Il a validé, donc le conseil, le prix de vente négocié de cette société à 850 000 euros. C'est une décision qu'on a prise, donc de vendre très concrètement l'ensemble des terrains nus à Mme Arnaud pour qu'elle construise un immeuble. Ce prix de vente concerne l'ensemble des biens inclus dans le périmètre de la convention opérationnelle, la salle de l'atelier, la parcelle AH427, et une partie de l'espace situé devant cette salle, la parcelle AH160, là où il y a le monument Mémoire et Paix. Précision faite que conformément aux dispositions de la convention précitée, ces terrains sont vendus nus. Les parcelles cadastrées provisoirement AH427 et AH160 n'étant pas situées dans le périmètre de la convention opérationnelle, puisqu'elles sont à nous, et qu'EPORA se substitue à nous, donc on ne pouvait pas vendre à nous-mêmes, elles doivent être cédées nues par la commune à la société A2S IMO et non par l'EPORA. Pour cela, par délibération 24-05-11 du 14 mai 2024, ces deux parcelles ont été désaffectées et déclassées et elles relèvent désormais du domaine privé de la commune. Pour des raisons techniques et budgétaires, il a également été convenu que les opérations de démolition seront gérées par la société A2S IMO et que ces coûts donc de démolition seront intégralement déduits du prix de vente des deux parcelles. Donc on vend les deux parcelles, mais à Mme Arnaud, nous ne nous versera que le prix d'achat moins le coût de la démolition. On doit lui vendre un terrain nu. Même si à ce jour, ces coûts de démolition ne sont pas encore connus, afin de lancer la commercialisation de ces futurs logements, la société A2S IMO a besoin d'être propriétaire des deux parcelles concernées. Par avis du 1er juillet 2024, la valeur vénale de ces parcelles a été estimée à 190 000 euros avec une marge d'appréciation de 10% par les domaines. Cette valeur ne prend pas en compte le coût de la démolition de la salle de l'atelier. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles provisoirement cadastrées AH160 de 146 mètres carrés, c'est la salle de l'atelier, et AH425 de 152 mètres carrés, c'est la partie qui est située devant, au profit de la société A2S IMO au prix transitoire de 190 000 euros, donc prix qui résulte de l'estimation des domaines, de décider que le prix de vente définitif de ces parcelles ne sera défini que lorsque le coût réel de démolition et les éventuelles dépenses annexes induites sont connues, certifié par la société A2S IMO et validé par la commune, ces sommes venant en déduction du prix de vente transitoire fixé à ce jour à la somme de 190 000 euros. Et de dire que le prix d'achat de 850 000 euros proposé et validé par la délibération 24-05-05 comprend l'achat des terrains rendus nus situés dans le périmètre de la convention opérationnelle, donc les acquisitions d'EPORA une fois détruit le foncier, les parcelles objet de la présente délibération et le coût de la démolition de salle de l'atelier et les éventuelles dépenses annexes induites réellement supportées par la société A2S IMO. Les frais d'acte seront pris en charge par l'acquéreur. Concrètement, ça veut dire que à Deux Assimaux payera 850 000 euros en tout, 190 000 à la mairie, moins les coûts de la démolition qu'elle aura assumés, et le solde sera versé à l'EPORA. Des questions par rapport à ça? Voilà, c'est l'idée, c'est qu'on puisse avancer rapidement. Pour, parce que là, maintenant, je dirais, EPORA est en train de faire les diagnostics, plomb, amiante, etc. Je pense que la démolition, enfin, je ne sais pas, Frédéric, on n'a pas forcément de nouvelles. Je pense que le marché devait être finalisé au plus tard pour fin novembre. Donc, la démolition devrait commencer au plus tard début 2025. Michel, me dit qu'on parle du bungalow. Non, vous avez vu qu'il y a un petit bungalow qui a été installé pour accueillir l'activité bar tabac française des Jeux par M. Neder, donc dans l'attente, puisqu'on en reparlera après, de la création d'un local commercial. Donc, qui est contre cette décision? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on valide cette décision de cession à Mme Arnaud. Et je vous en remercie. Donc, suivante. Dans le cadre de l'opération de requalification urbaine du centre-bourg et de la convention opérationnelle signée entre la commune et l'EPORA, ce dernier s'est porté acquéreur des parcelles situées dans l'îlot 2 et notamment le bâtiment situé 2 place Jean-Baptiste Père, parcelle cadastrée AH161 sur laquelle est installé le bar tabac dit le Saint-Prier. Ce bâtiment devant être détruit par l'EPORA, l'exploitant qui a repris les licences bar et tabac, M. Neder, a sollicité le déplacement intracommunal de son débit de tabac. Par arrêté du 27 août 2024, ce commerce a été autorisé à se déplacer provisoirement sur l'espace public situé à l'angle de la place Jean-Baptiste Père et de la rue Victor Hugo. Indépendamment des démarches d'urbanisme, d'accessibilité et de sécurité déjà entreprises par l'exploitant, une convention temporaire du domaine public, d'occupation temporaire du domaine public, doit être signé entre ce dernier et la commune et une redevance doit être fixée par le conseil municipal. Il est donc demandé au conseil d'approuver la convention d'occupation temporaire du domaine public, jointe à la présente, de fixer la redevance d'occupation à la somme de 100 euros par mois et de m'autoriser à signer la dite convention. Ça veut dire que là, il nous a demandé l'autorisation d'installer le bungalow. La condition, c'était qu'il ait déposé le permis de construire qui s'y rapporte. Ça a été fait, donc il a installé le bungalow. Maintenant, on attend bien évidemment la validation du permis de construire de la commission d'accessibilité, puisque c'est un ERP, et à ce moment-là, il pourra prendre en charge son activité. Donc, on vous propose une redevance à hauteur de 100 euros par mois. Il y a deux choses qu'on verra dans la convention. Frédéric, on ne l'a pas modifié, c'est de la forme. Hein. On dit qu'on est propriétaire des locaux, alors qu'en fait, on n'est pas propriétaire du local, on est propriétaire des lieux, mais ça, on verra. C'est le fait qu'on lui propose de signer pour un an. Ça peut être conductible. Je crois qu'il avait dit éventuellement qu'il souhaitait que ce soit acté 2 ans. Bon, moi, ça ne me gêne pas, si vous en êtes d'accord, qu'on modifie dans ce sens. Parce que de toute façon, dans 2 ans, il y sera encore. Voilà. Des questions par rapport à ça? Donc, vous avez vu que c'est un bâtiment qui est tout à fait honorable, hein, correct, où il va pouvoir maintenir ses activités, sachant qu'après, la rue qui est devant le tabac actuellement va être en partie condamné par les travaux. Il n'y aura plus qu'un axe de passage, donc tout le stationnement qui existait devant le tabac, temporairement, va disparaître. Des questions? Non. Quand il n'y aura plus ce stationnement, forcément, ça risque de bouchonner un petit peu sur l'ensemble du secteur, mais on y veillera. Donc voilà, après, vous le savez, je ne vais pas vous faire l'histoire, il doit être en contact avec Mme Arnaud, qui va proposer dans son projet une surface commerciale de 170 mètres carrés. Il doit prendre tout ou partie, charge à lui évidemment, de négocier avec Mme Arnaud. Ce n'est pas moi qui vais aller voir Mme Arnaud en disant, voilà, vous devez vendre ou louer à M. Neder. C'est une négociation commerciale dans laquelle je me refuse d'intervenir. Voilà. Après, chacun, les deux sont des commerçants, c'est à eux de régler ça entre eux. Des questions par rapport à cette convention de mise à disposition? Alors, je crois qu'il a tiqué sur le fait de payer 100 euros, mais je ne savais pas qu'il fallait que je prenne un compteur électrique, je ne savais pas qu'il fallait que je prenne un compteur à eau, etc. Oui, bon, bah, d'accord. Il ne savait pas, mais ce n'est pas grave. Nous, on savait, on lui a dit. Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on peut valider la convention qu'on lui soumettra. On va passer maintenant à la partie budgétaire. Je passe le micro à Michel.
Oui, bonsoir à tous. Effectivement, comme toutes les années, en fin d'année, on vous propose une délibération qui concerne les décisions modificatives de crédit. Vous savez qu'on fait au mois de mars un budget primitif sur lequel on met toutes les prévisions de recettes et de dépenses, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Et effectivement, comme on n'est pas devin et qu'on n'a pas forcément une boule de cristal, on ne tombe jamais vraiment juste sur certaines opérations. Donc, on propose des décisions qui vont modifier un peu les crédits et qui vont en rajouter un peu, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Donc ça, c'est une délibération qu'on prend toujours au mois de novembre et au mois de décembre financièrement, enfin sur la partie finance, on vous proposera une autre délibération qui sera l'engagement des crédits urgents. En partie investissement, puisque vous savez que normalement, on arrête tous les comptes en fin d'année sur l'investissement et sur le fonctionnement. Et pour avoir le droit de recommencer à dépenser dès le 1er janvier, on engage, au point de vue d'investissement, des sommes qui nous permettent de tourner au moins au premier trimestre, tant qu'on n'a pas voté le budget, et qui sont... Alors, en fonctionnement, ce n'est pas nécessaire, puisqu'on a automatiquement l'autorisation de dépenser 25% du montant de ce qu'on a dépensé l'année d'avant. Autant sur l'investissement, il faut qu'on engage compte par compte et opération par opération. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont les décisions modificatives de crédit. Donc, on va commencer par le fonctionnement. Alors, cette année, c'est un peu modifié. Vous avez vu, vous avez reçu un joli document qui fait 40 pages parce qu'on est passé de la nomenclature M14 à la nomenclature M57 et maintenant, on est obligé. Les décisions modificatives ressemblent en fait à un mini-budget. Je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est un peu compliqué. Je vais vous résumer très simplement. En fonctionnement, le montant du budget primitif qu'on avait voté au mois de mars, c'était de 10 032 069 en dépenses et en recettes, puisque vous savez que nous, on est obligé de présenter des budgets en équilibre. Donc, on le fait systématiquement. Et on vous propose une décision modificative pour un montant de 82 494 euros, ce qui vous représente 0,8% du montant du budget. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qu'on fait très à la marge. Alors, je ne sais pas ce qu'on... Tu peux peut-être mettre la page 5, c'est peut-être là où c'est le plus... voilà. Où on a l'investissement et le fonctionnement. Il n'y a aucun détail, mais moi, j'ai tous les je vais vous donner un peu de détails. Si vous en voulez plus, il n'y a pas de souci, j'ai tout le document. Donc, la décision modificative, eh ben, comment on fait ? Eh ben, on voit si on a des recettes supplémentaires, ce qui est le cas, puisqu'on a inscrit en recettes supplémentaires 77 202 euros qu'on a touché en plus sur les droits de mutation. Vous savez, chaque fois qu'il y a une vente, il y a une partie de ce qu'on appelle les droits de notaire qui reviennent à la commune et qu'on appelle les droits de mutation. Donc, on a pu dégager 77 000 euros de plus que ce qu'on avait prévu, parce qu'on est toujours assez prudent parce que c'est compliqué de l'estimer. Donc, voilà. Et on a aussi 5 292 qui sont une reprise sur dépréciation des actifs circulants. C'est sur les provisions qu'on avait fait éventuellement pour des admissions en nos valeurs, pour des choses comme ça et qu'on n'a pas utilisées et qu'on n'utilisera pas d'ici la fin de l'année. Donc, on peut les récupérer. Voilà. Donc, on a 82 494 euros de recettes supplémentaires. On en a plus, hein, je vous rassure, heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas d'excédent à la fin de l'année. Mais on avait besoin de ça. Donc, on retrouve effectivement la même somme en dépenses. Voilà. Donc, on a essentiellement, on a diminué des dépenses sur les achats et sur les services extérieurs, parce que c'est des sommes qu'on sait qu'on n'utilisera pas. Et par contre, on a augmenté. Alors, il y a divers petits ajustements de compte à compte, hein, parce que, par exemple, quand on prévoit le voyage, on le met au départ en voyage au niveau du pôle enfant-jeunesse. Et après, il faut dispatcher en transport, alimentation. Voilà, donc tout ça, c'est des changements de compte que notre chef comptable s'amuse malheureusement à faire et qui sont assez... plutôt pénible à faire, voilà, mais qui sont obligatoires. Et puis surtout, on a augmenté de 86 190 euros le 62-28, qui sont les prestations extérieures pour rémunération. Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, quand on avait des intérimaires, des gens qui venaient remplacer pour un plus ou moins longue durée ou des choses comme ça, on le mettait en frais de personnel. Et maintenant, on passe par une agence qui est un peu spécialisée là-dedans et qui nous propose des gens. C'est déjà bien pratique parce qu'ils ont un vivier donc on n'avait plus du tout et certains et puis il y a des métiers où c'est compliqué hein, d'avoir un remplaçant, on remplace pas un agent technique ou un chauffeur routier, enfin quelqu'un qui a le poids lourd comme ça. Donc ces gens-là, on les rétribue et maintenant c'est on rétribue l'agence d'intérim et non plus directement la personne. Donc ça ne passe plus en frais de personnel, ça passe en rémunération d'un prestataire de service et c'est pour ça qu'on a changé de compte. On n'a pas modifié pour l'instant le montant des charges de personnel. On ne les a pas baissées de la même somme. On est un peu prudent parce qu'on ne sait pas trop ce qui va nous tomber sur la tête pour les charges de personnel d'ici la fin de l'année. S'il y a des augmentations de points d'indice ou des choses comme ça ou des modifications, on préfère avoir quand même une marge. Et de toute façon, cette somme-là, si on ne la dépense pas en frais de personnel, on la retrouvera dans notre excédent de fonctionnement. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et on a enlevé aussi 17 000 euros sur le nettoyage des locaux parce qu'on avait décidé de prendre un prestataire et finalement, ça ne s'est pas satisfaisant. Donc, oui, on a pris ces gens-là pardon, en intérim au lieu maintenant de le prendre sur autre chose. Voilà. Alors, donc, bon, on reste sur 82 494 en fonctionnement et sur l'investissement qui était au budget primitif 2024 d'un montant de 7 558 235 euros. On a une montante de décision modificative de 130 044 euros, pardon, soit 1,70%, ce qui n'est pas très important non plus. C'est vraiment des ajustements. Alors en fait, on a enlevé parce qu'on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait prévu hein, plus ou moins la rénovation de la salle de la Bargette. On avait mis des sommes pour la maîtrise d'œuvre et on avait mis des sommes pour les travaux. Et puis, quand on a vu le montant des sommes qu'il fallait engager pour rénover la Bargette, on a vite arrêté. Donc, on a diminué. On a quand même payé une partie des prestations à l'architecte. Enfin, pas un architecte. Un architecte qui nous avait préparé le projet, mais on a arrêté à ce niveau-là. Donc, on ne lui a pas payé la totalité de la rémunération. Et puis, surtout, on a enlevé les sommes de ce qu'on avait prévu pour rénover la Bargette qu'on a remise sur autre chose. Voilà. Et on a aussi en dépenses... Voilà. Et on a en... Attendez, je suis perdue entre les recettes et les dépenses. Oui, voilà, c'est ça. On a enlevé, donc, on a enlevé ces dépenses-là. Par contre, on a rajouté la deuxième tranche de la vidéosurveillance. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'arrêté d'attribution des subventions de la région pour cette deuxième tranche. Donc, on avait été prudent. Et tant qu'on n'avait pas la subvention, on n'avait pas mis la dépense. On a reçu les subventions pour 75 000 euros. Donc, on a inscrit les 145 000 de la deuxième tranche de la vidéosurveillance. On est obligé de faire des travaux sur la Villa Saint-Michel, que ce soit le tableau électrique ou la chaudière, parce que maintenant qu'on loue un peu plus la Villa Saint-Michel, puisqu'on va démolir l'atelier, il faut absolument passer par ces travaux qui sont indispensables. Et puis, on a fait différents ajustements de compte à compte, des programmes qu'on n'a pas fait, d'autres où on a un peu dépassé. Voilà. Donc, on est sur 130 044 euros. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on avait prévu 600 000 euros d'emprunt pour l'année 2024 sur les différents projets. 900 000, puisqu'il y avait 300 000 de l'année dernière, plus voilà. Eh bien, on recommence cette année. Donc, on a sollicité les 300 000 de l'année dernière et une première tranche de 300 000 euros. Donc, on reste à 600 000, alors qu'on avait augmenté un peu le montant des emprunts. Et les 300 000 euros, on n'en aura pas besoin d'ici fin 2024. Donc, on les reportera en reste à réaliser sur 2025. Voilà. Donc, on aura déjà ces 300 000-là, ce qui nous permettra de voir un peu plus en avant combien on aura besoin pour l'année 2025. Voilà. Donc, je vous demande d'approuver, d'autoriser M. le maire à signer ce document et approuver les décisions modificatives.
Des questions ? Donc, vous avez compris, on prend des recettes pour augmenter nos dépenses en définitive. Et puis pour les investissements, on redéploie. Des questions ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc qui valide cette demande modificative à l'unanimité ? Et je vous en remercie. Rémi, tu veux nous parler du tennis club ?
Oui, bonsoir Rémi Mounier. Donc la prochaine délibération concerne les subventions aux associations finalement à l'arrêté qui a été pris par Monsieur le maire pour empêcher l'utilisation du court tennis numéro 2, court couvert, hein, qui menaçait de s'effondrer. Et pour assurer la continuité des enseignements, au printemps 2024, le tennis club de Saint-Priest-en-Jarret a utilisé le gymnase Nord le gymnase du lycée Simone Veil sur cette période. On a, le club a réglé la mise à disposition du gymnase qui était de 630 €, et comme on avait convenu avec le club, on prend en charge cette facturation, donc sous forme de subvention exceptionnelle pour rembourser le club qui a déjà réglé. Donc pour assurer la continuité des enseignements au printemps 2024, suite à la démolition du cours numéro 2, l'association Tennis Club a dispensé ces derniers au gymnase nord du lycée Simone Veil. Je vous propose de verser une subvention exceptionnelle de 630 € à l'association pour la prise en charge de la redevance d'occupation du gymnase nord facturée par le lycée Simone Veil.
Donc on prend en charge le surcoût qu'a connu le tennis club compte tenu de la neutralisation d'un court de tennis. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui valide ? Donc on valide cette subvention exceptionnelle. La délibération suivante concerne la subvention exceptionnelle qu'on accorde au comité des œuvres sociales. Vous savez qu'on leur accorde une subvention de fonctionnement annuel de 25 500 € et qu'en fin d'année... Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, mais c'est le COS qui donne les primes, on va dire, de départ en retraite et une médaille du travail. C'est pas l'employeur. Ça remonte à l'époque de Chaboissier, où c'était l'employeur qui le faisait. À l'époque, ça avait été mis en cause par la tutelle. Donc, maintenant, c'est le COS qui paye. Et nous, on le rembourse. En conclusion, on vous demande de verser une subvention exceptionnelle de 3 500 € au COS pour 5 médailles du travail et un départ de retraite. En retraite. Voilà. Donc, le départ en retraite, c'était Pascal Cuvelier qui est parti, qui part au 1er janvier 2025. Et les médailles, c'est Élise Mascré, Thierry Chapuis, Valérie Roche, Jean-Pierre Roll et Karina Saï-Bouchnada. Des questions par rapport à soi ? C'est ce qu'on fait chaque année. Hein. Il y a une année simplement où le COS avait, en sortie de période de confinement, avait un peu plus de trésorerie et ils nous avaient sollicité pour une partie. Voilà. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide une subvention exceptionnelle de 3 500 € au COS pour nos agents. Donc là, on revient. Alors, ça peut vous paraître étrange, mais c'est tout à fait cohérent. Sur les subventions, financement donc de l'école qu'on appelait encore à l'époque, encore Jules Ferry. Par délibération du 27 juin 2023, le conseil municipal a sollicité pour le projet d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry une aide financière auprès de Saint-Y-Métropole au titre du plan de relance 2021-2023. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous n'avions aucune notion de ce que nous pourrions obtenir au titre des subventions. À cette époque, le projet est estimé à 4 531 042 euros hors taxes et la commune avait donc sollicité un fonds de concours d'un montant de 2 265 521 euros, représentant 50% du coût du projet, car nous n'avions aucune certitude de percevoir d'autres subventions. Depuis cette date, et notamment depuis la notification en date du 12 octobre 2023 de la convention relative au versement du fonds de concours sollicité, la commune a obtenu des subventions de l'État, de la région, de la CAF, de la Loire et du Ciel. Ces recettes vont donc modifier le reste à charge de la commune et par conséquent, le montant du fonds de concours de Saint-Étienne Métropole. C'est-à-dire qu'on prend le coût global, on retire toutes les subventions et ce qui reste à charge est divisé par deux. Moitié pour Saint-Étienne Métropole, moitié pour nous. Le nouveau plan de financement est donc le suivant. Travaux et dépenses mandatées, donc payés 3 913 705 euros. Les dépenses engagées 51 933. Le solde des travaux à payer est 201 567 euros, soit un total de 4 167 205, auquel il faut rajouter la maîtrise d'œuvre, études et divers, dépenses mandatées 424 943, maîtrise d'œuvre, études et divers, dépenses engagées 13 688, soit un sous-total de 438 631. Les avenants, c'est 200 000 euros. Donc le coût global hors taxe du projet s'élève à 4 805 836 euros. Qui est financé de quelle façon ? Donc, on a déduit les 600 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1 110 150 euros de l'État. On n'a pas intégré les 1 700 000 de M. Panneker parce qu'on s'est dit, bon, là aussi, c'est des échanges de messages. Nous, on travaille qu'avec des notifications. Donc, de toute façon, in fine, on devra sans doute de l'argent à Métropole, parce que ce qu'ils nous ont versé comme acompte, c'est supérieur à ce qu'ils devraient nous payer. Le ciel, 54 530 euros. La caisse d'allocation familiale, 151 344 euros. Et donc, pour les 60% qui restent, 30% pour Métropole, 1 444 906. Et pour Saint-Prix-en-Jarret, 1 444 906, qui nous fait un total de 4 805 836 euros. Donc, je vous demande de solliciter au titre du plan de relance métropolitain 2021-2023 un fonds de concours de 1 444 906 euros et non 2 265 521 euros comme au début. Donc, c'est pas neutre, hein. Et de solliciter par conséquent un avenant à la convention du 12 octobre 2023 relative au versement d'un fonds de concours à la commune pour le financement de l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et l'intégration des locaux de la petite enfance. Des questions par rapport à ça? C'est simplement l'actualisation par rapport à la nouvelle notification par SMS qu'on a reçue. On n'a encore pas d'arrêté préfectoral. On n'y touchera pas. De toute façon, in fine, quand on fera les comptes, ça viendra forcément en déduction. Ce n'est pas la peine de repasser une quatrième ou cinquième décision qui apporte rien de plus. Simplement, ça sera encore moins que ce qu'on demande en termes d'équilibre financier. Des questions par rapport à ça? Vas-y.
Globalement, on a un reste à charge de la commune de 1 400 000. On a vendu Jean Massé, donc il reste 400 000 à charge de la commune. Alors ça, c'est un travail d'équipe remarquable, notamment dans la pêche aux subventions de Frédéric et de Christian. Et il y a eu un gros travail à tous les niveaux. Et c'est voilà, le résultat, c'est qu'on fait cette restauration pour 400 000 euros.
Les deux propositions suivantes, on va passer la parole à Antoine. La première, c'est sur une demande de subvention pour de l'équipement de la police municipale auprès de l'État.
Alors, subvention de l'État pour l'équipement de la police municipale, c'est le fonds interministériel de prévention de la délinquance. Monsieur le maire expose, le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, c'est le FIPD, est instauré par l'article 5 de la loi numéro 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et est encadré par l'article 1er du décret numéro 2019-1259 du 28 novembre 2019. Le FIPD a vocation à soutenir les actions menées dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la radicalisation par l'État, les collectivités territoriales, leurs groupements, les associations, les organismes publics ou privés. Le FIPD se décline en 4 programmes, et notamment le programme S, Action de sécurisation, par lequel l'État peut contribuer à financer l'équipement des polices municipales, des gardes champêtres et des ASVP. À ce titre, dans le cadre de soutien spécifique du FIPD pour l'amélioration des conditions de travail et de protection des polices municipales, l'État peut attribuer une aide d'un montant forfaitaire de 250 euros par gilet pare-balles acquis. Il est demandé au Conseil municipal de solliciter auprès de l'État au titre du programme S du FIPD une subvention de 1 000 euros correspondant à l'achat de 4 gilets pare-balles et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention.
Bon, donc on demande une subvention à l'État pour acquérir des gilets pare-balles. Question? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide la demande de subvention à l'unanimité. Je vous en remercie.
Alors, subvention de la région pour l'équipement de la police municipale. Monsieur le maire expose, pour lutter contre l'insécurité, des aides régionales permettent aux communes de déployer ou renforcer la vidéoprotection, mais également de mieux équiper les policiers municipaux. À cet effet, la région peut subventionner au titre au taux maximum de 50% les dépenses d'investissement pour les équipements de police municipale telles que l'acquisition d'équipements de protection individuelle, par exemple les gilets pare-balles et casques de protection, et de moyens de force intermédiaires, les pistolets à impulsion électrique, lanceurs de balles de défense, bâtons de protection, etc. En 2025, la commune doit renouveler les gilets pare-balles de ses policiers et le pistolet à impulsion électrique, c'est le PIE, l'actuel devant être remis au banc d'épreuve de Saint-Étienne pour destruction suite à une défaillance de fonctionnement. Le coût de ces équipements est estimé à 2 892 € TTC pour les 4 gilets pare-balles et de 9 121 € 68 TTC pour le PIE et ses accessoires, soit un total de 12 013 € 68 TTC. Il est demandé au conseil municipal de solliciter auprès de la région une subvention de 6 006 €, correspondant à 50% des dépenses liées aux équipements précités, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention.
Donc c'est comme pour les gilets pare-balles auprès de l'État, pour l'équipement, puisqu'on peut avoir une subvention jusqu'à 50% de la part de la région, donc on la demande. Des questions ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide la demande de subvention auprès, cette fois-ci, de la région. Je vais vous proposer d'intégrer dans le corps de l'ordre du jour la décision que vous avez trouvée sur table. Parce qu'on a longuement travaillé ce matin dessus. Ce projet, qui est celui du complexe sportif Camille de Rochetaillé, il doit passer, vous savez, dans le cadre du plan de relance, dans le cadre du dernier dossier, tel qu'on l'avait présenté au mois de septembre, je crois. Or, compte tenu d'un certain nombre d'éléments dont je vais vous présenter maintenant, il aurait dû être présenté en réunion de bureau métropolitain le 12 novembre, la demande de financement dans le cadre du plan de relance, le 12 novembre, et en conseil le 5 décembre. Bon, ce matin, on a un avant-projet qui est quasiment définitif, avec une augmentation très importante, mais qui se justifie par un certain nombre de paramètres, validés par les deux clubs concernés, le tennis et le foot. Donc, j'ai appelé Métropole en leur disant on suspend la présentation de notre demande du mois de septembre en bureau du mois de novembre et en conseil du mois de décembre parce qu'on fait une nouvelle décision qu'on vous présente ce soir que je leur ai envoyée cet après-midi et normalement, mais j'attends la confirmation, ce dossier devrait encore pouvoir passer en janvier. Tout s'arrête au 31 décembre 2024 en termes de décision. Mais nous, comme les travaux ont été engagés bien avant, on pourrait normalement présenter ce dossier dans le cadre du plan de relance encore en janvier. Voilà, bon. Parce que pour nous, il y a un enjeu très important qui est d'un écart de 800 000 euros. Donc, par délibération 24-09-06, le conseil municipal a validé le projet de restructuration du complexe sportif Camille de Rochetaillé d'un montant de 1 835 924 euros hors taxes. Et a sollicité l'aide financière de Saint-Étienne Métropole au titre du plan de relance métropolitain pour une somme de 837 127 €. Pardon. Même si ce site implanté en bordure du Furan n'a pas été directement impacté par les dernières intempéries qui ont frappé la région stéphanoise, compte tenu de la présence de ce cours d'eau et de la nature du sol, le maître d'œuvre en charge de ce projet préconise désormais une implantation des installations différente de celles initialement validées. Les travaux prévus, à savoir la création de cours de tennis et de paddle couverts, avec installation de panneaux photovoltaïques, de terrains de foot et en gazon synthétique, seront bien réalisés, mais leur implantation sur le site du complexe Camille de Rochetaillé sera différente. Compte tenu de ces modifications, le projet initial de 1 835 924 euros hors taxes est désormais estimé à 2 801 272 € hors taxes. Différents éléments, en particulier techniques, pour éviter qu'un jour on ait des problèmes de sol. Il y a une autre disposition, vous verrez quand on aura finalisé le projet, in fine, le cours qui s'était effondré, qui était aujourd'hui un cours découvert, on va le recouvrir, on va le déplacer pour que le club de tennis ait bien deux cours couverts. On va bien sûr prévoir les paddles avec une structure photovoltaïque. On va revoir l'ensemble du terrain synthétique existant qu'on va refaire sur ce même terrain en taille réglementaire pour, au niveau des normes régionales. Enfin, voilà. Donc le nouveau plan de financement prévisionnel est le suivant. Terrain synthétique, foot à 11, 899 134 euros. Terrain synthétique de foot à 7, donc un demi-terrain. 397 271 euros. Terrain de tennis extérieur, 228 311 euros. Terrain de paddle couvert avec panneau photovoltaïque, 411 252 euros. Terrain de tennis couvert avec panneau photovoltaïque, puisqu'on va couvrir, on va en profiter pour mettre du photovoltaïque, 526 348. Aménagement des abords des aires de jeu, 94 859 euros. Et aménagement du parking, on crée un parking dans l'enceinte même, 128 608 euros. Total, 2 801 272 euros. Les prestations, pardon, 115 448 000 euros, ça c'est le maître d'œuvre. Les recettes, le département, 161 670 euros notifiés, hein, puisque c'est une demande qu'on avait fait l'an dernier au mois de décembre. Le fonds de concours métropolitain, 1 319 801 euros pour 47,11%, et la commune, 1 319 801 euros, 47,11%. La commune est un maître d'ouvrage de cette opération et demandé au conseil municipal de solliciter pour ce projet une aide financière auprès de Saint-Étienne Métropole au titre du plan de relance métropolitain, d'autoriser Monsieur le maire à déposer le dossier de demande de fonds de ce concours correspondant et à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention. Je vous rappelle que ce dossier était inscrit au bureau des maires du 14 novembre prochain et du conseil de communauté du 5 décembre 2024. La commune n'ayant reçu les nouveaux éléments financiers précités que le 31 octobre dernier, le dossier sera donc retiré de l'ordre du jour de ces instances. Comme convenu avec les services de Saint-Étienne Métropole, la présente demande de fonds de concours sera présentée aux instances de Saint-Étienne Métropole début 2025. Donc voilà, alors vous avez compris. Le fait qu'on ait plus de 630 000 euros de plus pour Jules Verne, ça réduit d'autant la participation de Saint-Étienne Métropole. Donc ça nous réouvre un droit de tirage sur notre enveloppe de 3 millions d'euros auprès de Métropole dont on saisit l'opportunité à ce moment-là. C'était une discussion qu'on a eue ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? On reste sur la demande initiale par prudence ou on essaye d'ajuster au maximum. La personne qui gère les dossiers à Métropole m'a dit qu'il n'y aura pas de problème. Demain, je rentrerai en contact avec la vice-présidente, Mme Berroukèche, pour dire voilà où on en est. Je veux la garantie que ça passera bien en janvier. Voilà. Et là, on optimisera effectivement l'ensemble du financement. Le financement qu'on vous propose est un financement optimal. Il y a du photovoltaïque. On ne sait pas si le ciel pourra intervenir dans le financement. On verra. On verra. Non, mais ils l'ont fait ailleurs. Ils l'ont fait à Villars. Ils l'ont fait à Villars. On verra. On verra. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on a un budget là qui est vraiment, je dirais, pas maximaliste, mais qui est vraiment optimum. Un beau projet qui change complètement la configuration et qui respecte les deux entités, foot et tennis. Comme ça, il n'y a pas de croisement entre les deux complexes. Une mutualisation d'un nouveau parking, à peu près une quarantaine de places supplémentaires, d'une aire de détente et de convivialité commune aux deux structures, c'est une reconfiguration complète de ce site. Ce serait une façon de terminer de façon très agréable notre mandature. Voilà. Des questions par rapport à ça? C'est une actualisation, vous avez compris, budgétaire. Dès qu'on aura, nous, une visibilité, on vous présentera, on vous projettera, ou au prochain conseil, ou à l'occasion d'une réunion plénière, l'ensemble du projet, qui est un beau projet, et qui intègre, et ça c'était important de savoir, les perspectives de proximité d'une rivière, même si le Furan aujourd'hui ne déborde plus comme on a pu le connaître à une époque, il y a toujours des risques. Et là, avec ce projet-là, on anticipe un certain nombre de difficultés qui pourraient survenir. Antoine, on va essayer, mais bon. Non, mais on a un avant-projet. Donc maintenant, on établit aujourd'hui un budget. Après, on va lancer. Le seul problème je dirais, il est plus dans le calendrier, c'est-à-dire que le foot a besoin de ses terrains pour finir la saison. Le tennis, lui, bah, aujourd'hui, fonctionne avec un court couvert et un court extérieur, et c'est tout. Donc, il va falloir concentrer et rationaliser l'ensemble des travaux, parce que là, on va toucher à l'ensemble des terrains. On avait dit, on fait le terrain en herbe, en synthétique, on ne touche pas au synthétique et après, on redéploie. Là, on va toucher à tout. Donc, ça veut dire que c'est, des, à mon avis, pour l'essentiel, des travaux qui vont être concentrés sur la période estivale. Pour au moins la partie grosse œuvre. D'autres questions ?
Oui, l'entretien du terrain de foot en herbe coûte entre 50 et 60 000 euros par an. Et là, on le supprime, cet entretien, avec ce projet-là. Plus le photovoltaïque, on ne sait pas ce qu'il peut rapporter, mais de toute façon, il rapportera. Il y aura, suivant le montage du dossier, il y a quelque chose qui arrivera. Et le projet, moi, je le connais dans les grandes lignes, Jean-Pierre m'en avait parlé, il est extrêmement qualitatif. Et tant qu'à faire quelque chose, autant faire quelque chose de bien, jusqu'au bout, quoi, de faire comme on a fait pour l'école. On fait un projet.
Photovoltaïque alimenteront quel énol?
Ça dépend du montage. Tiens, ouais. Vas-y, réponds.
Oui, c'est Rémi Mounier. Les panneaux photovoltaïques, par principe, n'alimenteront pas le complexe sportif. Pourquoi ? Parce que les panneaux, quand ils vont fonctionner, ça va être l'été, c'est pas au moment où on consommera de l'électricité. Par contre, les panneaux photovoltaïques généreront une recette pour la vente de l'électricité aux fournisseurs d'énergie qui viendra finalement en déduction des charges d'électricité que supporte la commune. D'accord. Donc ça reviendra au même et ça sera de ce qu'on appelle de l'injection dans le réseau. Directement de l'énergie produite par les panneaux, ce qui est beaucoup plus rentable finalement que l'utilisation qui, par définition, l'utilisation de l'électricité, ben, c'est le soir quand on allume les terrains ou les complexes, et par définition, c'est là où les panneaux ne produisent pas d'électricité. Donc on fera plutôt de l'injection qui sera quand même plus intéressante et qui optimisera le coût du panneau.
Je voulais juste savoir. C'est...
c'est eux qui récupèrent la manne. Ouais. Elle reviendra dans le domaine communal que dans 15 ans.
D'accord.
Si on investit, c'est pour nous. Si c'est le ciel, c'est pour le ciel.
Ouais. D'accord.
C'est du fonctionnement, hein, l'électricité telle que tu l'évoques. Si le ciel prend en charge, c'est de l'investissement. C'est ce qu'on n'aura pas payé. Donc après, c'est aussi un problème de décision en opportunité. On verra bien. Donc on va passer aux voix. Si vous en êtes d'accord, donc qui est contre l'actualisation de ce projet? Il reste un point d'interrogation, on est d'accord? Je veux la confirmation qu'on pourra bien présenter le dossier dès le premier bureau de 2025. Apparemment, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais bon, parce qu'il y a pas mal de communes qui ont encore reporté, qui ont fait des ajustements. La seule garantie que voulait Métropole, c'est qu'on ne sorte pas de l'enveloppe des 3 millions et on sera bien en deçà. In fine, puisque je pense qu'on leur remboursera de l'argent sur ce qu'ils nous ont déjà versé pour Jules Verne. Si, on verra. Eh ben, c'est comme ça. C'est le budget et la trésorerie. C'est deux mondes différents. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide ce projet de financement, demande de subvention, et puis on verra bien comment ça va se passer. On vous tiendra au courant. Le point suivant, c'est la communication du rapport social unique sur les données donc gestion du personnel 2023. Le RSU, entré en application depuis le 1er janvier 2021, est une enquête en matière de ressources humaines définie par la Direction générale des collectivités territoriales qui remplace le bilan social. Il doit être présenté au comité social territorial, puis communiqué à l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire à vous-même. Le RSU s'articule autour de 10 thématiques, l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail, l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, l'action et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. Il permet d'obtenir une photographie à un instant précis de la collectivité et constitue un outil de dialogue social et de gestion des ressources humaines dans la collectivité. Les différentes données sociales permettent d'analyser les caractéristiques des emplois et la situation des agents, recrutement, avancement de grade, promotion interne, rémunération, la situation comparée des femmes et des hommes, la mise en œuvre des mesures pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et la formation. Donc, on vous a communiqué une synthèse du rapport social unique pour 2023. Alors déjà, pour les promotions qui séjournent par le centre de gestion, pour la Xème année consécutive, nous n'avons eu aucune validation de nos demandes de promotion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai pris quelques chiffres importants. Au 31 décembre 2023, nous avions 158 agents physiquement employés. 158 fiches de paye. 66% sont des fonctionnaires, 11% des contractuels permanents et 22% des contractuels non permanents, essentiellement les personnes qui travaillent pour le pôle enfant-jeunesse. 64% sont en catégorie C, niveau le plus bas, la fonction publique, 28% en catégorie B et 8% en catégorie A. Catégorie A, équivalent, bien sûr, équivalent à un niveau d'encadrement. L'âge moyen est de 48 années et demie pour un agent permanent et de 39 ans pour un agent non permanent. Enfin, et ça c'est important par rapport en termes de gestion, je vous ai dit 158 agents physiquement employés, mais on a beaucoup de temps partiel et on avait en fait au 31 décembre 124,67 agents ETP rémunérés. Donc c'est ça qu'il faut voir, équivalent temps plein. On a perdu un poste, enfin on a supprimé encore un poste entre 2022 et 2023, puisqu'en 2023 nous avons eu 15 embauches et 16 départs. Les charges de personnel représentent 62,34% de nos dépenses. Une commune comme la nôtre, en termes de population, devrait être aux alentours de 55 à 56%. Mais nous gérons tous les services en direct. Et en termes d'absence, la moyenne est de 33,7 jours. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais on a eu énormément de longues maladies. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un tableau des absences sur 10 ans. 10 années, eh bien, on a beaucoup, par exemple, d'agents qui ont 667 jours, 488 jours, 950 jours, 1551 jours, 921 jours, 432 jours, 1128 jours, 1257 jours, 474 jours, 638 jours, 1186 jours. Ce sont des gens qui ont été victimes de très longues maladies, effectivement. Donc, la moyenne, mécaniquement, telle qu'elle est là, hein, à 33,7 jours, on ne veut rien dire. Quand vous avez un agent qui est absent pendant toute l'année, c'est 365 sur 365. Et on a eu quelques cas très longs de longues maladies qui, en plus, après, basculent en incapacité ou en invalidité. Voilà. Avez-vous d'autres questions par rapport à cette synthèse qui a été présentée hein, en commission technique paritaire? Non, c'est simplement une communication. Le point suivant concerne la protection sociale complémentaire de nos agents. Bon, je vous passe, je fais grâce de tous les vus le décret, etc. Les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent, permettant de couvrir. Donc deux cadres. Le risque prévoyance, qui est la protection de l'agent en cas d'arrêt de travail, de mise en retraite pour invalidité décès. La participation de l'employeur devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Elle ne peut être inférieure à 20% du montant de référence de 35 euros par mois, fixé par décret 2022-581. Donc ça, c'est la prévoyance. Deuxième point, les risques santé ou mutuels. La participation des collectivités territoriales devient obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Elle ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence de 30 euros par mois fixé par le décret 2022-581. Le décret 2011-1474, 8 novembre 2011, dispose que l'employeur public peut choisir entre la convention de participation ou la labellisation. La convention de participation, dont le principe est la sélection d'un seul organisme de complémentaire labellisé dans le cadre d'un appel à la concurrence lancé par la collectivité, permet une gestion plus unitaire du dispositif, mais l'agent n'a que le choix d'adhérer ou ne pas adhérer dans ce cas. C'est nous qui choisissons l'opérateur. La labellisation permet la portabilité de la participation d'une collectivité à une autre, détachement, mutation, la liberté de choix par l'agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont labellisés. La liste est disponible sur le site de la Direction générale des collectivités territoriales. Donc là, c'est l'agent qui choisit sa complémentaire et nous qui finançons. Dans tous ces cas, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, respecter certains principes de solidarité. Dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, la collectivité souhaite participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. Donc on ne leur impose pas un contrat, on viendra cofinancer l'organisme qu'ils auront choisi. Donc je vous propose de retenir la procédure dite de labellisation, on va labelliser un ensemble de contrats choisis par les agents, de participer financièrement à compter du 1er janvier 2025 à la garantie prévoyance et maintien de salaire souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents de la manière suivante. Versement direct à l'agent d'un montant mensuel forfaitaire de la participation fixé à 10 euros, quelle que soit la quantité de travail de l'agent. Qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, il percevra 10 euros. La cotisation sera due à tout agent, fonctionnaire titulaire ou stagiaire, contractuel de droit privé ou public, présentant une attestation de labellisation de son contrat de prévoyance et d'inscrire les crédits nécessaires au budget d'exercice correspondant. Je ne veux pas dire de bêtises, Frédéric, c'est déjà ce qu'on leur versait. Donc on a décidé de ne pas augmenter à partir de 2025 cette participation. Dans l'attente du dispositif, nous mettrons en place en 2026. Les 10 euros, ils les avaient déjà. Mais c'était proratisé. Quelqu'un qui travaillait à mi-temps, il avait que 5 euros. Là, ils auront tous 10 euros. Donc il y a un léger surcoût. Mais on a décidé de ne pas augmenter globalement pour voir ce qu'on va mettre en place, cette fois-ci, dans le cadre du complément maladie. Là aussi, il va falloir intervenir. Et de voir aussi comment vont évoluer l'ensemble de nos charges de personnel dans les mois qui viennent. Donc voilà. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'entériner le principe. Labellisation, c'est-à-dire l'agent choisit son contrat et on lui verse sur production d'une attestation mensuellement les 10 euros. Des questions par rapport à ça ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide cette participation forfaitaire de 10 euros. Je vous en remercie. Le point suivant, là aussi, vous savez, c'est le... Je dirais presque à chaque conseil, on passe des actualisations de l'état de nos postes et de nos fonctions. Donc, au conseil municipal, je vous rappelle que l'article L332-23, deuxièmement, du Code général de la fonction publique, autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Il est nécessaire de prévoir l'animation des activités jeunesse du centre de loisirs municipal, le recours à des emplois d'été pour renforcer la gestion des travaux d'espaces verts pendant la période estivale, ce qu'on appelle les emplois étudiants, les emplois saisonniers, le recours à des emplois d'été pour renforcer la gestion des dossiers uniques d'inscription aux activités périscolaires et culturelles de la commune. C'est les jeunes qu'on prend à l'accueil. L'accompagnement d'enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire. L'accompagnement de la petite enfance et des temps scolaires et périscolaires. Ces missions ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, je vous propose de créer et de m'autoriser à recruter à compter du 1er décembre 2024 19 emplois non permanents sur le grade d'adjoint d'animation dans la durée de service et de 10 heures maximum par jour d'ouverture du centre de loisirs pour l'encadrement des enfants et en sus des heures de préparation pour donner suite aux accroissements saisonniers d'activités de l'animation des activités jeunesse du centre de loisirs municipal. 10 emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique à temps complet pour renforcer la gestion des travaux d'espaces verts pendant la période estivale. 10 emplois non permanents sur les grades d'adjoint administratif à temps complet pour renforcer la gestion des dossiers uniques d'inscription aux activités périscolaires et culturelles de la commune et 15 emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique à temps non complet à raison de 1 heure minimum par mois pour faire face à des besoins ponctuels d'accompagnement de la petite enfance et des temps scolaires et périscolaires. La rémunération sera fixée par référence à l'indice brut 367, indice à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. et la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget. Donc ça veut dire qu'on est en train, en fait, d'anticiper, de verrouiller, créer tous les postes dont on va avoir besoin de façon temporaire, plutôt que de vous les soumettre mois après mois. Donc là, on les crée par anticipation et on les aura à l'état limitatif des effectifs. Pour le pôle enfant jeunesse, pour les emplois saisonniers et pour les renforts ponctuels qu'on peut avoir besoin, dont on peut avoir besoin dans les services techniques. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui valide et pour ? Et je vous remercie. Le dernier point, c'est plus formel qu'autre chose, mais pour autant, et Gilles Tizy n'en a pas parlé, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est la définition de zone d'accélération de l'énergie renouvelable, ZAER. Où est-ce qu'on peut créer de l'énergie renouvelable et accélérer la production de ces zones. La loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable instaure un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables. L'État doit mettre à la disposition des collectivités locales les informations disponibles sur le potentiel d'implantation des énergies renouvelables. Les communes doivent ensuite identifier des zones d'accélération favorables à l'accueil des installations. Passé un délai de 6 mois, le référent préfectoral arrêtera la cartographie des zones d'accélération et la transmettra pour avis au comité régional de l'énergie. Vous voyez là encore, département, région. Si ce comité conclut que les zones identifiées sont suffisantes pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables, les référents préfectoraux de la région arrêteront la cartographie à l'échelle du département, après avis conforme de chaque commune concernée par les zones situées sur son territoire. Dans le cas contraire, les référents préfectoraux devront demander aux communes d'identifier de nouvelles zones. Les communes pourront toujours délimiter des zones d'exclusion dès lors que les objectifs régionaux seront atteints. Sur la base des informations reçues de la préfecture sur le potentiel d'implantation des énergies renouvelables, je vous propose de retenir les zones suivantes. Alors, vous aviez tout, hein, l'éolien, la méthanisation, les photovoltaïques, tout ce qu'on peut imaginer en zone de production d'énergie renouvelable. Et vous aviez compris qu'on devait produire des cartes, et on en a eu plusieurs, très difficiles à gérer. Ça part à la préfecture, c'est validé, ça part à la région. Si c'est conforme, c'est bon. Si c'est pas conforme, il faut revoir notre copie. Non, on a évoqué tout à l'heure le SCOT, le SRADET et compagnie. Hein. Donc, la seule énergie solaire qu'on a estimé pouvoir développer sur la commune, c'est le solaire photovoltaïque sur les bâtiments. Et notre proposition, c'est que ce soit l'intégralité de notre territoire. Ça veut dire que sur tous nos toits, on pourrait développer des installations photovoltaïques. Voilà. Vu le code de l'énergie, vu les informations reçues de la préfecture sur le potentiel d'implantation des énergies renouvelables, considérant l'intérêt pour la commune, je vous propose de décider de définir les zones d'accélération de l'énergie proposées conformément aux dispositions de l'article L141-5-3 du Code de l'énergie, de me charger de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente délibération. Donc là, on a joué notre rôle de bon élève, puisqu'on était une des dernières communes à ne pas l'avoir fait. Il y a des communes, il y a d'autres enjeux. Sur du solaire, y compris en milieu agricole, sur la méthanisation ou des choses comme ça. On l'a fait. Attention, c'est validé au niveau départemental puis au niveau régional. Je dis attention, peut-être que demain, systématiquement pour toute nouvelle construction ou extension, photovoltaïque. Attention. Là, nous, on a été un petit peu dissidents, n'est-ce pas, Frédéric ? Alors, ça vous fait sourire, on dirait, ah non, ils ne pourront pas. Peut-être, ou peut-être pas. Ah oui, si on dit là, on peut, sur l'ensemble de nos toitures, mettre du photovoltaïque, on peut. On ne va pas l'exiger. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, ça ne sera pas une obligation ? Parce que là aussi, il y a des objectifs qui sont fixés par l'État, en termes de dépendance énergétique. Non, mais, ou sur ta terrasse, il n'y aura plus de moustiques, on tu verras, ils seront tous cramés. Donc voilà, donc on a respecté la règle du jeu, parce qu'on était vraiment dans les quelques mauvais élèves. Donc, on y répond là maintenant ce soir. Bon, ouais, s'il y avait une solution, c'est de mettre partout des panneaux photovoltaïques sur la Doie, par exemple. Ou mettre un petit barrage sur le Rio Tor. Je ne pense pas que ça aurait produit beaucoup. Ou des éoliennes au Cré. Voilà, donc, Donc voilà, on a joué le jeu avec beaucoup de prudence et de, je dirais, de doute sur l'avenir, mais voilà. Donc, qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide ces zones d'accélération à l'unanimité et je vous en remercie. Et moi, je n'ai plus de questions à cet ordre du jour. Donc, on va pouvoir clôturer le conseil. Maintenant, si vous avez des questions ou des interventions, je suis à votre disposition. Pas de questions ? Donc, le 11 novembre à 11h devant la mairie. Donc, nous aurons, comme d'habitude, nos porte-drapeaux et puis les discours. Tu m'as dit qu'il y aurait 3 jeunes, porte-drapeau et deux lectrices.
D'accord.
Vers 10h30. Dès que j'ai le texte, ou tu l'as lu, non, déjà le texte ? Dès que je l'ai, je te l'envoie ?
D'accord. Okay.
Bon, bah, merci à vous et bonne soirée.